Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix jusqu'à 20h sur Sud Radio. Et aujourd'hui, nos trois vraies voix, le président, c'était pas Laurent Blanc, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur du livre « Libre propos d'un inclassable » publié à la Nouvelle Librairie.
Voilà, je vais essayer de le démontrer là ce soir.
Inclassable, c'est ça, vous va bien.
Inclassable, mais je sais pas, il faudra que j'essaye de contredire peut-être
Inclassable et pas incassable.
Incassable, malheureusement, plus totalement.
Oh bah on est tous cassables, de toute façon, vous savez.
Vous, oui.
Vous la connaissez bien, Caroline Pilastre, chroniqueuse dans le domaine du handicap visuel.
Non, consultante, et chroniqueuse,
excusez-moi, voilà. Sud Radio. Bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Et elle est souvent avec nous par Zoom dans Les Vraies Voix, notamment cet été, mais là elle est de passage dans la capitale. Aurore Boyard, avocate, co-autrice avec Olivier Lambert du livre « Quand les robes s'en mêlent » du verbe « se mêler » et « s'en mêlent » du verbe « s'en mêler » publié chez LibriNova. Bonsoir.
Bonsoir.
Le menu des Vraies Voix, nos deux grands débats à 17h30, réforme de l'assurance chômage, ça rentre en vigueur aujourd'hui. Traite-t-on les chômeurs comme des coupables? Vous voulez réagir? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux, notre second grand débat. Ça a fait vraiment ça a créé une grande émotion hier soir. Un tueur en série a laissé une lettre après s'être suicidé. Affaire Le Grêlé, c'était son surnom dans la police. Contre les tueurs en série, faut-il un fichier ADN de toute la population? Puisqu'il y a plus de 4 millions de personnes qui sont déjà fichées ADN et on a eu des résultats d'enquête pour seulement 12% d'entre elles. Il y a seulement 12% de ces empreintes ADN qui ont été exploitées. Et ensuite, nous partirons au monde nouveau avec Philippe Rossi. C'est du côté de Montpellier où était ce matin pour la matinale Patrick Roger et Cécile de Ménibus. En forme, les vraies voix?
Bien sûr.
Complètement.
Bon, je vous posais une question. À votre avis, un vendredi soir, je devrais être plutôt de bonne humeur?
Content.
Oui, c'est la fin de la semaine normalement, oui.
Eh ben non.
Pourquoi?
Il a une matraque, Benalla, il va plaire.
Oui, alors, reprise de Claude François, elle a les yeux bleus, Belinda, c'est Il a une matraque, Benalla, parce que je dois avouer que je suis tombé de l'armoire.
Encore, donc c'est mort.
Tu vas
le
faire mal, à force, tu vas avoir des bleus, il faut mettre l'armoire.
L'armoire est en pleine forme.
Et vous êtes toujours là, pourtant,
oui.
Philippe.
Et là, je sais qu'on va pas être d'accord, Philippe Bilger, parce que je vais pas être content contre la justice, puisque
c'est pas nouveau.
Seulement 18 mois de prison avec sursis ont été requis contre Alexandre Benalla. Alors bon, il a pas fait des choses très graves, il a juste fait le barbouze, porter des insignes de policier en n'étant pas policier, tabasser des manifestants, etc., etc. Et j'ai soutenu les juges quand ils avaient envoyé pour 4 mois en prison la personne qui avait donné une gifle au président de la République. Parce que j'estime qu'on n'a pas à frapper le chef de l'État. Mais quand on va frapper des manifestants en ayant des insignes de policiers, alors que évidemment on n'a pas le droit de frapper des manifestants, désolé de le dire, on n'est pas sous Duvalier chez le tonton Duvalier en Haïti avec les tontons Macoute, et qu'en plus on les tape et que le parquet, c'est le ministère public je crois en correctionnel,
le procureur
ne requiert même pas de prison ferme, j'ai très très peur, je l'avoue franchement, parce que dans 13 jours, il y a un procès qui va faire beaucoup parler, celui de MJ Delguérab, un député LAREM qui a tabassé Boris Faure, un socialiste, à coups de casque de moto, et l'autre a fini quand même en soins intensifs, voire même en réanimation. Je me demande si dans ce cas de figure, on ne va pas dire « Oh ben lui, il est député, donc il n'y a pas de raison qu'il aille en prison, même s'il a tabassé quelqu'un ». Alors je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, Philippe Bilger.
Non, mais Philippe, vous continuez à errer dans ce domaine. Mais en même temps, j'attache du prix à votre pensée, même si elle est parfois répétitive. La mienne aussi, d'ailleurs.
Mais, ça ne m'avait pas échappé.
Mais vous voyez, déjà, il est très difficile, lorsqu'on est un profane, d'apprécier la validité d'une décision de justice. Moi, je pourrais, à la rigueur, être d'accord avec vous au regard de ce qu'il a accompli. Mais il faut bien considérer qu'il y a un principe en justice que, pour ma part, je discuterais si j'étais garde des Sceaux. L'individualisation des peines. Parce que le fait d'avoir une loi pénale contrainte, avec une multitude de situations délictuelles ou criminelles qui sont très diverses, impose aux magistrats d'avoir parfois des sanctions qui peuvent vous apparaître qui peuvent vous apparaître, pardon, trop faibles. Et donc, je vous dénie le droit d'aller dans le fort intérieur des magistrats et d'être indigné par l'édit jumeau avec sursis. Pour ma part, je trouve que par rapport au passé d'Alexandre Benalla, malgré la gravité de certaines de ses infractions, 18 mois avec sursis, ça n'est pas rien, surtout si, renouvelant encore des infractions, il avait à purger ces 18 mois. Donc je vous trouve intelligent, mais indigné toujours trop rapidement, trop confortablement.
Bon, ça, c'est direct. Avant de donner la parole à la défense, Caroline Pilastre.
Eh bien, écoutez, hein, moi aussi, je fais partie des indignés, donc vous allez être en désaccord avec moi, mon cher Philippe. Vous voyez, exactement. Non, parce qu'en tant que citoyenne, bien sûr qu'on se dit que c'est assez scandaleux. Parce que la justice, on a l'impression de plus en plus, alors peut-être parce que les affaires ressortent sur les réseaux sociaux et qu'il y a plus de médiatisation, mais qu'elle est faible avec les forts et fort avec les faibles.
Voilà.
Il y a un côté déconnexion. On se dit que cette personne, si ça avait été le quidam, aurait pris beaucoup plus cher. Et là, on sait très bien que monsieur Benalla, au vu de son profil, est soutenu, a été assez préservé. Est-ce que c'est un véritable barbouze ?
Il y a des gilets jaunes pour des coups dans une manifestation, et pas simplement contre des policiers qui ont été en prison.
Mais bien sûr.
Donc je ne comprends pas ce deux poids deux mesures, personnellement aussi.
La parole est à la défense.
À la défense ou à la voix de la raison. Enfin, les errances de Philippe, je les comprends parfaitement. Et effectivement, nous, avocats, on sait qu'il y a une individualisation des peines en fonction de l'individu, mais on sait aussi que les sanctions dépendent des magistrats. Là, en l'occurrence, ça a été requis par le procureur de la République. Il faut savoir que les juges ont la possibilité de prononcer une peine plus dur, puisque ce sont les juges qui prononcent la peine. Ils peuvent aller au-delà des réquisitions du procureur, comme ils peuvent aussi l'acquitter. C'est les juges qui ont la décision en dernier lieu. Deuxième chose, on est quand même dans un pays où on sait que le ministère public n'est pas totalement indépendant. Ça dépend des procureurs, puisque là aussi, c'est une question d'hommes et de femmes, tout simplement. Donc c'est d'ailleurs un problème. J'ai vu une tribune hier d'un ancien avocat qui dit qu'il faudrait que le ministère public soit complètement rattaché. Ils sont censés être indépendants, ils ne le sont pas forcément. Et troisième chose, nous les avocats, on le voit bien, on râle comme vous aussi, parce que parfois on trouve qu'effectivement il y a deux poids, deux mesures, on râle aussi. Donc je vous comprends parfaitement. Et après, là aussi, c'est le juge qui décidera. Donc il ne faut pas forcément s'indigner sur des réquisitions du procureur de la République qui joue son rôle. Je terminerai en indiquant que ce problème n'est pas récent, puisque je suis en train d'étudier un procès en 1887 sur des enfants qui ont été frappés. Et déjà à l'époque, les journalistes s'indignaient parce que ceux qui avaient frappé et puis commis des actes de torture sur des enfants, il y en a un qui était mort, ont été condamnés à 200 francs d'amende pour certains. Et déjà, les journalistes s'indignaient. Voilà, donc je dirais que l'indignation publique n'est pas nouvelle.
Bon, écoutez, la parité est respectée, mais comme Caroline est d'accord avec moi et que j'ai la primauté, comme je suis l'animateur, j'ai raison. N'est-ce pas, Caroline ?
Tout à fait, monsieur.
Merci beaucoup. Même si j'adore rendre la justice comme ça.
Oui, mais bien sûr. Vous savez ce que disait lorsque Lincoln présidait le Conseil des ministres, il disait un nom, 13 oui, le nom l'emporte. C'était le sien.
Et vous savez ce que disait Clémenceau ? Pour prendre une décision, il faut être un nombre impair et 3, c'est déjà trop. Donc au moins, c'était simple, c'est qu'il avait... Il pensait que c'était lui qui décidait à la fin. Vous êtes bien dans les vraies voies. 17h12 à 17h30, notre premier débat réforme de l'assurance chômage. Traite-t-on les chômeurs comme des coupables ? Traitons-nous les chômeurs comme des coupables ? Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Aurore Boyer, Caroline Pilastre. Et c'est l'heure du tour de table de l'actualité, ma chère Caroline. Et le vôtre va commencer en musique.
Ah,
on a connu les magasins Tati un peu partout en France, à Paris, à Toulouse. Il y en avait un qui était juste à côté de la place Saint-Georges pour les Toulousains qui nous écoutent. Et le dernier magasin Tati va fermer.
Et oui, je voulais parler de cette grande institution qui a fermé ses portes le 29 septembre 2021 et qui a connu son âge d'or en 1982. C'est un magasin qui a été créé initialement en 1948 et c'était, comme tout le monde le sait, un grand bazar qui a révolutionné le commerce.
Il était boulevard Barbès à Paris.
Voilà, le légendaire premier, magasin était boulevard Barbès. D'ailleurs, c'est le dernier qui a fermé, comme tu le disais. Après, les enseignes ont ouvert en province et même sur la 5e avenue à New York.
Ah, il y a eu un tatis sur la 5e avenue.
Il y a eu un tatis, oui, mais alors qui était un tatis beaucoup plus luxueux.
Ah oui, sur la 5e avenue.
La cible, justement, c'est ça aussi qui les a fait un peu plonger, c'est que la cible était plus high level. Donc, vous souvenez-vous, ils ont même
au
décidé
niveau,
d'ouvrir...
Au niveau,
plus haut de gamme, pardonnez-moi.
Alors que Caroline parle un excellent français.
Et si vous voulez, ils ont décidé de prendre à un moment donné le chemin, justement, du haut de gamme, puisque, souvenez-vous, ils ont même ouvert des tatis or et des tatis mariage qui avaient fait un boom et qui étaient quand même
alors,
une bonne chose pour les plus petits portefeuilles.
Tatis mariage était, vous avez voulu concurrencer pronuptial en étant moins cher, de mémoire, je crois que. Et tatis or, c'était la bijouterie low cost.
Exactement. Bon, mais du coup, ça servait à beaucoup de Français et de Françaises qui.
Si vous n'avez pas entendu, c'était le calembour du jour de Philippe Bilger. Pas de tatiflette.
Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres.
Ça commence bien.
Tu nous as tendu
une perche,
quelque chose.
Bien sûr.
Pardon.
Et c'est pas grave.
Tu étais très sérieux sur ta
là, vous avez fondu ces arguments.
Non, pas du tout. En 1991, ils m'en font plus pour être déconcentré, si je peux me permettre. En 1991, ils ont commencé à décliner parce que justement, il y a eu une concurrence féroce des marques type Zara, H&M, Mango, la fast fashion qui est arrivée. Ils n'ont pas su se renouveler. Voilà, mais tout le monde a en tête justement ces pubs. Tati qui restera quoi qu'il en soit, une révolution au niveau du commerce à bas prix.
Philippe Bilger, Tati, vous étiez consommateur ou pas ?
Non, mais je passais souvent devant parce qu'à à une certaine époque, j'habitais du côté du square d'Anvers. C'était tout près et donc j'ai parfaitement compris l'intérêt de la chronique de Caroline.
Merci,
qui l'a brillamment exprimé, malgré le franglais à un moment donné.
Mais ça fait quelque chose quand même quand une enseigne disparaît. Moi, quand j'étais enfant, il y a plein d'enseignes qu'on a connues, désolé, même dans l'alimentaire. Félix Potin, ça a disparu. C'est un peu la mort d'une aventure entrepreneuriale.
Passé, mais en même temps, est-ce qu'on peut dire, en ce qui me concerne, je n'avais pas vraiment de nostalgie pour Tati. Vous comprenez ? Donc, il y a des choses qui font partie de notre passé qui s'effacent, dont je ne regrette pas, pour à parler franc, l'absence, ce ne serait pas la même chose si tout à coup on m'annonçait la disparition, je ne sais pas, du plus grand animateur des vraies voix.
Bah écoutez, j'espère pas disparaître d'ici là.
Non.
Vous êtes en train d'écrire ma nécrologie par anticipation.
Mais vous savez qu'il faut toujours les préparer de longtemps.
Oui, mais enfin bon, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux dernièrement.
Tati est pas mort, c'est assez triste quand même.
Alors Tati, vous avez connu les magasins de Tati ?
Alors moi j'en ai beaucoup entendu parler, mais je n'y suis jamais allée non plus. Mais c'est vrai que ça va faire partie de l'histoire maintenant et ça me fait un petit pincement au cœur parce que j'ai beaucoup d'amis qui y allaient. Voilà, et c'est vrai que ça fait quand même partie de notre culture française.
Ils étaient implantés en province, moi je me rappelle, à Toulouse, il y avait un monde pour rentrer au Tati de Toulouse, mais quand Tati avait débarqué à Toulouse, c'était la folie, une queue, mais c'était incroyable, on ne pouvait pas rentrer dans le magasin, parce que la réputation, mais il y a eu plusieurs rachats, etc. Alors, peut-être que la société, n'a pas su s'adapter, vous le disiez, à l'évolution du marché, et ça c'est souvent fatal.
Malheureusement, quand les grandes enseignes de fast fashion sont arrivées, ils ont été complètement pris à leur propre jeu, c'est-à-dire que vraiment ils n'ont pas su se tourner vers une nouvelle clientèle plus jeune, et en fait ça fait 25 ans que malheureusement
ça décline.
Mon cher Philippe, pour prendre un exemple moins douloureux que celui que je viens de prendre à votre sujet,
merci.
il est évident, j'ai été dimanche par exemple, samedi j'ai vu l'excellente pièce de Samy Frey dont j'ai parlé, et après je me suis promené à Pigalle qui est
Tout va bien.
Ça me rappelle une chanson de Serge Lama. Je voudrais voir les petites femmes de Pigalle. Oui.
Et j'ai constaté avec une sorte de tristesse que tous les cinémas où j'allais avait disparu.
Ah oui,
et là,
mais
c'était une vraie nostalgie.
Non, mais Tati, on peut espérer, parce qu'on voit qu'il y a des marques anciennes qui reviennent,
qui
comme BN, on peut espérer que Tati, de toute façon, qui est quand même une marque assez prégnante, puisse être reprise, tout simplement par la suite, qu'on puisse racheter simplement la marque Tati et qu'on en fasse autre chose.
Une marque mythique des années 70 qui avait disparu et qui a réapparu dans le... le vêtement de sport, je ne vais pas dire le sportswear, le coq sportif.
Bien sûr,
c'est
pour ça qu'on
française
va...
qui a été ressuscitée il y a 4-5 ans.
On va être optimiste et on va se dire que peut-être, alors, finalement, ça va donner des idées à certains qui vont racheter la marque.
Alors, ma chère Aurore, optimiste, ça rime avec féministe, et vous voulez parler de ce qui est arrivé hier à Nicolas Hulot du côté de Tours.
Oui, alors donc il était aux assises du journalisme.
Et c'est
à
votre
Tours,
tour de table de l'actualité d'ailleurs, mais on va écouter un extrait parce que c'est quand même important de savoir ce qui s'est passé.
Non, madame, venez voir, madame, je vous demande, au lieu de madame, je vous demande de venir me voir. Veuillez m'excuser, mais je ne resterai pas dans cette soirée parce que le climat ne s'y prête pas en ce qui me concerne.
Voilà.
Alors, Nicolas Hulot a été pris à partie par des féministes lors des assises du journalisme, puisque, rappelez-vous, en 2008, il y avait une plainte qui avait été déposée contre lui pour viol, qui était prescrite et qui a été classée sans suite. Voilà. Donc, les féministes ont débarqué hier, hein, tout simplement, parce qu'elles n'étaient pas du tout
c'est
invitées
elles qu'on entendait
aux
derrière,
assises
bien
du
sûr,
journalisme.
On a compris.
Et ont mis le sujet sur le tapis. Voilà. Alors, moi, je commence un petit peu à en avoir assez, parce que vous savez que la cause, justement, des femmes victimes de violences, des femmes violées, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et je ne voudrais pas que quand on voit des choses comme ça, ça puisse avoir pour conséquence que des femmes qui sont effectivement victimes n'aillent pas déposer plainte ou ne hésitent à le faire parce que ça serait médiatisé. Parce que pour des victimes, la médiatisation de choses de viol ou de faits dont elles ont été victimes, certaines ne le souhaitent pas. Et en l'occurrence, il faut savoir que la plaignante de l'époque avait indiqué vouloir le mettre lui devant sa conscience, Nicolas Hulot, devant sa conscience.
Mais pas dans les médias.
Non, elle ne voulait pas forcément que ça soit médiatisé. Elle voulait simplement déposer plainte tout le temps. Elle avait attendu d'ailleurs, elle avait dit elle-même, elle avait attendu que ça soit prescrit pour déposer plainte. Parce que ce qu'elle voulait, c'était qu'il y ait une prise de conscience. Et c'est vrai qu'il y a des victimes qui n'ont pas forcément besoin d'avoir une condamnation pénale. Elles sont minoritaires, certes, mais ça arrive, ça existe, pour avoir fait leur deuil et pour s'être réparées.
Et est-ce que ça ne joue pas contre les féministes, ce type de comportement?
Bien sûr, mais ça joue également contre, je dirais, la cause des victimes de violences. Chaque cas est différent, chaque victime est différente. Et moi, je trouve qu'on doit respecter justement les victimes, quelles que soient, je dirais, leurs idées, quelles que soient les décisions qu'elles prennent. Et nous, on est là pour les accompagner. Et on fait un énorme travail pour les amener à parler, pour les amener à s'ouvrir, pour les amener à déposer plainte. Et quand on voit ça, moi, je me dis que ça remet un petit peu en cause le travail que l'on fait.
Philippe Bilger, les féministes qui font... Alors, désolé, je vais faire du franglais, c'est maintenant comme ça que ça se dit, qui out les gens en public comme ça, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est de toute manière discutable, parce que je déteste cette justice spontanée, qui n'en est pas une d'ailleurs, et qui incrimine, dénonce et stigmatise. Il faut faire très attention, aujourd'hui on a déjà parlé beaucoup, du fait que toutes celles qui déposent plainte ne sont pas forcément victimes. Moi je suis le premier à souhaiter que les agresseurs de femmes, les violeurs, bien évidemment aux assises, soient sévèrement condamnés, mais il faut faire attention aujourd'hui à cette dérive qui veut laisser croire que parce qu'une femme ou parfois quelqu'un d'autre a accusé, l'infraction est constituée. C'est ce qu'un grand avocat américain évoquait en disant la culpabilité par accusation. Or, la culpabilité par accusation, ça n'existe pas.
Caroline
ça ne doit
Pilastre.
Pas exister.
Écoutez, moi aussi, j'en ai assez de ces procureurs et du tribunal de l'Inquisition que peuvent représenter ces femmes par moment, parce que cette victime, en l'occurrence, n'a rien demandé. Elle ne leur a pas demandé d'agir en son nom et elle ne les a pas mandatées. Donc, partant de ce principe, il n'y avait qu'elle qui pouvait agir, qui pouvait témoigner si elle en avait envie, et pas ces femmes. Et moi, je ne supporte pas aussi vraiment le tribunal médiatique. Ça me met extrêmement mal à l'aise.
Mon cher Philippe Bilger, vous avez demandé une musique pour votre serviteur à Jamel, il va la passer tout de suite.
Ah bon?
Non, mais c'est pas possible là,
c'est
je sais pas.
C'est la marche.
Oui, mais vu ce que vous avez dit pour moi, je m'inquiète là.
Ah non, mais je suis revenu dessus, j'ai parlé après des voix douloureuses.
Vous ne m'avez pas envoyé un mauvais sort par hasard?
Non, mais pas du tout.
J'espère.
Je vous souhaite éternel, mon cher Philippe.
Il va falloir qu'on enquête quand même sur ce qui s'est passé entre vous deux pour que...
Il n'y a rien, je vous rassure.
C'est totalement platonique.
Voilà.
Heureusement.
Y a-t-il besoin d'une médiatisation?
Non, pas du tout. Les vraies voix, dans quelques instants. Notre premier débat, un sujet sérieux, réforme de l'assurance chômage. Traitons-nous les chômeurs comme des coupables? Eh bien, vous êtes pour le moment 75,5% à dire oui. Sur Twitter, on aura avec nous Marc Desplat, porte-parole du MNCP, le Mouvement National des Chômeurs et Précaires. Vous voulez réagir, les réseaux sociaux et le 0826-300-300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Aurore Boyard.
Quand j'étais petit, je voulais être chômeur. Maintenant, je suis grand, je suis chômeur. J'hésitais entre ouvrier chômeur et patron chômeur, et puis finalement, j'ai pris ouvrier. Eh ben, je suis content parce qu'il y a plus de choix.
Inoubliable Coluche, ça fait 35 ans qu'il nous a quittés. Et il nous manque beaucoup. Oui, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la phase 1 de la réforme de l'assurance chômage, une réforme qui touche environ 1 150 000 personnes qui verront une baisse de leurs indemnités de 17% en moyenne, avec pour contrepartie une durée d'indemnisation passant de 11 à 14 mois. Parmi les perdants de cette réforme se trouvent les personnes qui alternent période d'emploi et période de chômage, puisqu'un salarié au SMIC ayant travaillé 8 mois sur les 24 derniers mois touchera une allocation mensuelle de 667 euros, soit 300 euros de moins qu'avec l'ancien mode de calcul. Une phase 2 de la réforme entrera en vigueur le 1er décembre prochain. Elle touchera essentiellement les règles sur la dégressivité des allocations et la durée d'affiliation nécessaire pour ouvrir ou recharger des droits à l'indemnisation. D'où notre premier débat, réforme de l'assurance chômage. Traite-t-on les chômeurs comme des coupables? Traitons-nous les chômeurs comme des coupables? Eh bien, pour le moment, vous êtes 76% à dire oui sur Twitter. Vous pouvez bien évidemment réagir sur les réseaux sociaux et au 0826-300-300. Avec nous, Marc Desplat, porte-parole du Mouvement National des Chômeurs et Précaires. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vent debout contre cette réforme, pourquoi?
Alors, cette réforme était une baisse des allocations très importante pour les gens qui sont le plus en précarité et qui vont se retrouver pour un bon nombre, parce que vous dites baisse de 17 à 20%, parce que c'est les chiffres, ce sont des moyennes.
Oui, j'ai dit en moyenne.
Ce sont des moyennes. Vous l'avez dit, tout à fait, mais moi je suis confronté dans notre association à des gens au chômage qui ont une baisse de 50%. De leurs allocations parce qu'ils travaillent 2 jours, 3 jours par semaine, que des contrats précaires, que des contrats la journée. Comme ils travaillent beaucoup, ils sont rappelés par les agences d'intérim, etc. Ils travaillent 2-3 jours, mais la baisse des allocations, elle sera nettement de 50% s'ils travaillent la moitié de la semaine, même si c'est des grosses journées. Voilà. Donc, il faut arrêter avec les moyennes. Il faut dire ce qui est. Ce sont les gens qui ont les conditions de travail les plus difficiles. Parce qu'il y a des problèmes de déplacement, de non-stabilité de l'emploi. On vous appelle au jour le jour pour aller travailler. Et voilà, donc nous, on est vent debout contre cette réforme. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? On dit, il y en a qui sont désavantagés par rapport à eux, ceux qui travaillent tous les jours à temps partiel. Travail contraint.
Oui.
Temps partiel contraint,
pas temps partiel choisi, parce qu'il y a les deux, c'est important.
Voilà, oui. Et bien, le temps partiel contraint, d'abord, c'est un emploi plus stable. Et ensuite, quand il y a des gens qui sont plus avantagés que d'autres, bon, en dehors du problème des conditions de travail dont j'ai parlé, qui sont très difficiles pour les uns, il faut non pas baisser les allocations des uns, qui sont les plus précaires, mais il faut au contraire améliorer les allocations des autres. C'est ça qu'il faut faire. Donc on marche à l'envers. Toujours quand il y a un problème de déséquilibre, on cherche à baisser les allocations. C'est lamentable.
On va faire réagir les vraies voix, Philippe Bilger.
Monsieur Desplat, c'est bien. Est-ce que vous ne croyez pas qu'un gouvernement, et celui d'aujourd'hui évidemment, est sans arrêt confronté à cette difficulté de concilier une forme d'humanisme et le respect dû aux précaires et aux chômeurs qui vivent des situations très difficiles, et en même temps l'obligation de tenir des résultats sociaux et économiques? Est-ce que vous ne considérez pas que cette synthèse est la moins mauvaise qui soit?
Ah ben, c'est la plus mauvaise qui soit, cette synthèse qui fait actuellement. Il est évident qu'on tape sur les plus précaires. C'est eux qui vont devoir faire les efforts, et c'est les chômeurs qui vont faire les efforts. Donc ça, c'est les chômeurs les plus précaires. Beaucoup de personnes vont passer en dessous du RSA. Leur allocation sera inférieure au RSA. Et s'ils veulent un complément de RSA, il va falloir faire des dossiers administratifs extrêmement complexes donc, et qui change tous les mois, le contenu et les règles ne sont pas les mêmes, parce que pour le RSA, c'est tous les 3 mois, pour les autres allocations, c'est tous les mois, etc. Donc, on va avoir le nombre de non-recours va augmenter énormément, et donc, c'est absolument pas cette réforme qu'il fallait faire. Au contraire, il faut, pour les temps partiels contraints réguliers, qui, au moment s'ils deviennent chômeurs, ne toucheront plus la prime d'activité parce qu'ils ne travailleront plus, il faut faire un effort pour ces gens-là et non pas baisser les allocations des plus précaires.
Aurore Boyard.
Alors moi, je partage un peu l'avis de Monsieur Desplats, c'est qu'effectivement, quand on voit les conséquences de cette réforme, elle s'applique effectivement aux plus précaires. Et ça, c'est un vrai souci, parce que on s'attaque quoi aux étudiants aussi, faut le dire. C'est les moins de 27 ans qui vont en pâtir, et puis c'est les plus de 50 ans qui se retrouvent souvent au chômage, parce qu'en France, on considère que lorsqu'on a passé 50 ans, on ne vaut plus rien sur le marché du travail, et c'est un véritable problème.
On est même senior maintenant à 45 ans.
Exactement. Hein. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est quand même un vrai problème.
C'était 50 ans il y a 10 ans, et maintenant 45.
Bien sûr. Et donc, au lieu de faire une énième réforme sur l'assurance chômage, je pense qu'à un moment donné, comme on fait des réformes et qu'on tape un petit peu sur la tête des entreprises ou qu'on leur donne des incitations pour qu'il y ait la parité et que pour que les femmes qui travaillent autant que les hommes pour un même poste aient un salaire égal, on devrait aussi mettre l'accent sur les cinquantenaires ou les 45 ans qui peuvent encore travailler et puis aussi sur des personnes handicapées qui veulent aussi travailler. Je pense que c'est un vrai problème sociétal de conception même de l'emploi, mais c'est vrai qu'encore une fois, on tape sur les plus précaires. Et ça me pose problème, parce que Philippe parlait justement d'humanité. Ben là, elle est où l'humanité de taper sur les plus pauvres?
Justement, Marc Desplats voulait réagir à ce que dit Aurore Boyard. Je pense notamment à l'emploi des seniors, parce que leur dire on vous réduit vos indemnités, mais quand les boîtes ne veulent pas de vous, parce qu'elles se disent vous êtes trop vieux à 46 ou 47 ans, ça pose question, non?
C'est sûr qu'il y a des catégories qui ont plus de mal à accéder à l'emploi, et en particulier les seniors, effectivement. C'est que... Moi, je voudrais un petit peu revenir sur le fait que on nous a prétendu, on nous a tenu le discours qu'il y a des gens qui sont au chômage qui gagnent plus que s'ils travaillaient. Je m'inscris en faux là-dessus. Je voudrais le dire parce que c'est important. On ne peut pas toucher au chômage plus de 75% de son ancien salaire. C'est impossible. Donc, il n'y a pas des gens qui gagnent plus quand ils sont au chômage que quand ils sont, quand ils travaillaient. Ça, c'est pas vrai.
Exactement.
Alors, il est possible que on leur offre on leur fait des propositions qui sont inférieures à leur question de chômage, mais ça, il faut revaloriser les salaires, ça tout le monde le dit, tout le monde le sait, tous les syndicats le disent.
Caroline Pilastre.
Globalement, je vous rejoins aussi et je déteste le discours qui consiste à montrer du doigt les chômeurs régulièrement en disant que ce sont grosso modo des glandeurs qui ne veulent pas travailler. Parce qu'il y a un vrai problème en France, mais alors c'est ça qui est assez compliqué. C'est que vous entendez des commerçants, vous entendez certaines corporations dire qu'elles n'arrivent pas à embaucher, qu'elles n'arrivent pas à trouver de main d'œuvre dans l'esthétique aussi, dans le milieu de la beauté, le bâtiment, les coiffeurs et compagnie. Mais évidemment que dans la vie, ça n'est pas la panacée d'être au chômage. C'est en plus une mort sociale. À 20 ans, vous n'avez pas assez d'expérience. À 40 ans, vous êtes trop vieux. Donc il y a tout un système à revoir, déjà ne serait-ce que la mentalité, qui consiste véritablement à pointer du doigt une partie de ces Français-là. Et moi, je vous retrouve parce que je défends la cause du handicap et on sait que le chômage pour ces personnes-là, puisque je suis moi-même malvoyante, est doublé et que beaucoup d'entreprises ne respectent pas les 6% de quota obligatoires. Donc comment faites-vous quand vous êtes des personnes faisant partie de ces catégories, que vous envoyez régulièrement des CV et qu'on ne vous dit pas en plus les choses frontalement? Parce que si on vous disait qu'on ne vous prend pas à cause de votre âge, à cause de votre handicap, ça serait clairement de la discrimination et vous pourriez attaquer au tribunal. Mais ça n'est jamais fait. Donc je pense vraiment qu'en dehors de cette réforme, il y a toute une mentalité française à changer et qui est d'ailleurs est beaucoup plus évoluée dans les pays nordiques et anglo-saxons. Vous avez moins ces problèmes, même si c'est très compliqué aussi au niveau du droit du travail, entendons-nous bien. Mais je pense qu'en plus de ça, nous avons un millefeuille administratif qui n'aide absolument pas.
Ce que disait Marc Desplats, et je lui donne la parole, et après on part aux 0826 300 300, parce que le sujet fait réagir. Quand vous entendez que vous allez toucher les ACDIC, ce qu'on appelait à l'époque les ACDIC, les indemnités chômage par Pôle emploi, mais si vous êtes sous le RSA, vous allez faire un dossier à la CAF pour toucher le différentiel, que l'un vous paye tous les 3 mois, l'autre tous les mois, excusez-moi, c'est
l'enfer sur terre.
Mais la France est bureaucratie.
Comment
bien. La France
ah oui,
non, mais
là, c'est plus de la bureaucratie. Marc Desplats.
Ben je pense qu'il faut absolument qu'on évolue vers une indemnisation de base automatique, c'est-à-dire parce qu'on connaît les revenus des gens, maintenant les services fiscaux connaissent les revenus des gens au mois le mois, donc on peut très bien faire une allocation qui soit automatique et inconditionnelle, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit remis sur l'État et pas sur les départements, que les départements fassent de l'accompagnement des personnes, mais pas de l'indemnisation. Et l'indemnisation de base devrait revenir à l'État et être automatique, qu'on ne fasse pas des dossiers pour savoir si les dossiers qui sont jamais complets, etc. Ça, ce serait une réforme de fond qui serait tout à fait intéressante. Ensuite, il faut faire du CDI. C'est très important de faire du CDI. C'est pour ça que nous défendons, par exemple, pour l'insertion des gens, nous défendons les projets TZCLD, oui.
Territoire zéro chômeur longue durée. TZCLD, vous pouvez...
Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est un dispositif expérimental, où il y a 10 territoires pour le moment, qui permet d'embaucher, au lieu de faire des contrats précaires, des contrats d'insertion précaire, les PEC, comme on dit maintenant, mais les anciens CES, CAE, etc., au lieu de faire des contrats qui durent que 18 mois et après on retombe au chômage, et ben c'est du CDI. Et c'est donc pas un contrat d'insertion, c'est un contrat de droit commun. Et nous sommes tout à fait favorables à ce genre de dispositif.
Enfin, vous savez quand même, vous êtes conscients, je pense qu'on est tous conscients autour de la table, que l'État est aussi un employeur précaire et qu'utilisateur et à travers.
C'est sûr qu'entre tous les vacataires qui l'utilisent dans l'éducation nationale, etc.
Partout, mais même dans la justice maintenant. Donc partout. Je veux dire, l'État ne montre pas l'exemple.
Et c'est le plus mauvais payeur.
En plus, avec des bas salaires.
C'est vrai. Ça n'a rien à voir avec ce que je disais, mais c'est vrai.
On part dans une des plus belles villes du sud-ouest de la France, direction Pau, la ville d'Henri IV. Bonsoir Jean-François.
Oui, bonsoir. Bon, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Je ne vais pas rentrer dans ce qui a été dit. Je vais simplement, sans me vanter, donner mon exemple. J'ai donc passé 42 ans de travail, 21 ouvriers, 21 artisans. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je continue parce que je veux continuer. C'est vrai que j'ai pas une grosse retraite d'artisan. Je passe sur ça. Je viens de faire.
Je vais vous poser une question indiscrète. Vous n'êtes pas obligé de le dire parce que l'argent en France c'est un peu tabou. Votre retraite d'artisan est de combien d'euros ?
Elle est de 800 euros par mois.
Oui.
Mais je le savais et je ne me reproche rien. Donc je peux continuer parce que mes diverses formations pendant mes 42 ans. Et je vous dis, j'ai 70 ans et demi, je viens de faire 4 jours de formation très intense pour avoir une capacité de manipulation en fluide frigorifique. Et j'ai été regardé avec des jolis yeux parce que les formateurs n'ont jamais eu un candidat de 70 ans et demi et qui a passé l'examen avec transpiration ce matin et qui l'a eu.
Ah bah félicitations.
Alors, bravo.
Félicitations.
Alors je vais vous dire en France, il manque beaucoup de centres de formation. Il manque aussi de la motivation chez les gens, les jeunes, les moins jeunes et les seniors pour aller se former. On ne leur répète pas assez, ou ils n'en ont pas envie, ou pourquoi ils sont rentrés dans un statut un peu de laisser-aller. Et ça, c'est pas évident, c'est des spécialistes qui peuvent le faire. Mais je pense qu'au niveau de l'administratif de l'État, c'est trop compliqué. Si vous saviez le nombre de feuilles, de papiers que nous avons remplis pour être archivés, ce matin, c'est presque du gaspillage. On a du numérique, on a tout ça. Il a fallu faire 20 feuilles de papier avec des signatures. Alors moi, je souhaite aux gens qui ont la santé, vite d'essayer de se reconvertir, de chercher des formations. Je me suis battu pour l'avoir. Parce que
à 70 ans, c'est bon en plus. Hein. Vous n'étiez pas chômeur.
Je l'ai payé 1290 euros. Je me suis privé d'autre chose pour cet objectif. Et moi, je pense qu'en donnant l'exemple, comme je le fais, et je ne suis pas fier, je suis simplement quelqu'un qui dit « on peut le faire, j'ai la santé, suivez-moi ». Au préalable, je veux dire une dernière parenthèse, j'ai eu plusieurs dans mon parcours d'artisan, plusieurs stagiaires. J'avais des gens démotivés. Et j'avais des gens à qui on avait dit, quand vous sortirez d'ici, vous gagnerez 1500 euros net par mois. C'est pas vrai, stagiaire. Vous sortez, prouvez pendant 3 mois que vous valez de l'argent. Continuez à vous priver pour dire je vais me faire une place au soleil comme les autres. On ne devient pas un employé qualifié en étant prétentieux. C'est en se donnant à l'employeur et il va vous respecter l'employeur.
C'est au pied du mur qu'on voit les bons maçons, comme dirait le proverbe dans le bas du bâtiment. On va faire réagir Marc Desplats. Vous avez entendu ce que dit, c'est intéressant parce que c'était les vraies voix des entrepreneurs de l'emploi hier soir sur Sud Radio, et on parlait notamment de l'hôtellerie-restauration qui manquait de bras, et on disait faut envoyer les gens dans les CFA. Est-ce que ça, c'est pas une vraie solution pour contrôler le chômage? Parce qu'il y a plein de métiers qui manquent de bras, vous entendez? Pour manipuler des fluides frigorifiques, eh bien, on cherche des gens et on trouve un homme de 70 ans et demi qu'on félicite puisqu'il a eu son diplôme aujourd'hui, Marc Desplats.
Eh bien, on va dire qu'il faut que l'hôtellerie-restauration fasse plus de CDI, les emplois plus stables. Les emplois stables, c'est la base. Ça, c'est très important. Deuxièmement, je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur sur le fait que la paperasserie administrative, c'est lamentable. Il y a beaucoup trop de paperasserie administrative et de dossiers à faire et compliqués là-dessus, c'est évident.
Vous voulez réagir sur l'hôtellerie-restauration, notamment, je crois, sur les salaires?
Oui, moi, c'est un domaine que je connais vraiment extrêmement bien. Alors, effectivement, le monsieur a dit, c'est beau, hein, il est super motivé. Mais moi, ce que je peux dire une chose de ce que je vois, c'est que...
Vous avez quelqu'un de très proche de vous
qui a travaillé dans l'hôtellerie, qui s'est donné à fond pendant 8 ans. Et les salaires, c'est lamentable. C'est quand même une chose. Ensuite, vous avez des jeunes qui se défoncent. Mais on leur explique qu'il faut qu'ils se défoncent et qu'on va les augmenter. Puis au bout de 1 an, au bout de 2 ans, on ne les augmente toujours pas. Et il faut savoir que l'hôtellerie, quand même, c'est extrêmement pénible. On se rend compte d'ailleurs qu'il y a beaucoup de cas d'obésité dans l'hôtellerie parce on grignote, on vit complètement en décalé, ils sont complètement déphasés au niveau des horaires. C'est quand même relativement dur. Alors je dis pas qu'il faut bouder ça, mais qu'on augmente les salaires en France, c'est comme le problème aussi de la santé. Que certains... En fait, les cadres gagnent quand même relativement bien leur vie. Et encore. Mais par contre, les jeunes auxquels on dit de faire des études, qui sortent, qui sont diplômés, et c'est le cas aussi des jeunes avocats maintenant qui démarrent, mais pas que, où on leur file 1 500, 1 600, alors qu'ils ont 10 ans d'études, qui se sont sacrifiés, qu'il a fallu payer des études. C'est le cas aussi dans l'hôtellerie restauration des jeunes qui démarrent au SMIC, qui font des horaires de dingue. Je crois qu'il faut qu'on revalorise le travail.
Ça, c'est une vraie question. On est au bout du débat. Merci beaucoup, Marc Desplats, porte-parole du MNCP, le Mouvement National des Chômeurs et Précaires. Verdict sur Twitter, réforme de l'assurance chômage, traitons-nous les chômeurs comme des coupables? Vous êtes 78,4% à dire oui. La chronique présidentielle de Philippe Rossi, ça vous dit les amis?
Avec
plaisir. Eh bien écoutez, on va l'écouter dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Laure Boyard, et c'est l'heure de la chronique présidentielle. Actualité, indiscrétion, scoop, tout savoir sur la présidentielle 2022, c'est bien sûr avec vous Philippe Rossi. Et Xavier Bertrand ne se soumettra pas au congrès de LR.
Et non, pas de congrès pour le président des Hauts-de-France, ou alors plutôt, si, un congrès, mais à ses conditions. Xavier Bertrand souhaite qu'un seul nom soit soumis au vote, le sien.
Eh oui, c'est moi le patron.
Eh oui, c'est Xavier Bertrand le patron, ça on l'a bien compris. En tout cas, c'est le mieux placé à droite et ça lui donne des ailes. Xavier Bertrand propose donc aux autres candidats de se retrouver très rapidement pour se rassembler. Une alliance dont il aurait vocation à prendre la tête. Il l'a d'ailleurs expliqué hier au JT de France 2. Il était l'invité de la journaliste Anne-Sophie Lapix. Une séquence, écoutez bien, qui a fait le buzz ces dernières heures. Écoutez.
Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serai devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet?
Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages.
Et voilà, il y a eu un blanc surpris. Xavier Bertrand n'a pas su quoi répondre. Il y a eu quelques secondes de flottement et c'est long en direct avant que le candidat ne reprenne la parole. Anne-Sophie Lapix a mis KO Xavier Bertrand. Quel courage! Voilà, les réseaux sociaux se sont enflammés. C'est ce qu'on pouvait lire par exemple sur Twitter ou encore Instagram. Xavier Bertrand au congrès des LR avec un seul nom soumis au vote, le sien. Qu'en pensez-vous, tiens, Caroline Pilastre? Est-ce qu'il peut y arriver?
Bah, bien sûr qu'il peut y arriver, mais au même titre que Valérie Pécresse et que ceux qui vont se présenter. C'est trop tôt pour donner encore le nom d'un gagnant. Je trouve que ça fait assez mégalo quand même. Alors, est-ce que c'est une stratégie, une tactique politique pour dire, voilà, moi je suis le boss? On verra bien, on est quand même à 6 mois avant le premier tour, donc je trouve que c'est assez précipité.
Ouais, Aurore Boyard.
Ouais, moi je suis du même avis que Caroline. Mmh. Ça me, en plus, ça me laisse songeuse tout ça de les voir. Ils sont tous là à faire leurs petits comptes, leurs petits trucs, d'essayer de se placer. Voilà. Puis moi, Valérie Pécresse, je trouve qu'elle a fait de belles choses en région. Hein. Quand on écoute les gens d'Île-de-France, ils sont assez ravis de ce qu'elle a fait. Et ça me déplairait pas. Je trouve que c'est une femme qui parle bien, qui a des idées. Il faut un peu que les hommes aussi apprennent à laisser la place aux femmes, hein, quelque part.
Ouais, ouais. Philippe Bilger, est-ce que Xavier Bertrand n'est pas un peu trop, entre guillemets, un prétentieux?
Je ne crois pas.
Est-ce qu'il ne va pas un peu trop vite ?
La difficulté pour Xavier Bertrand, et il le dit assez souvent, c'est qu'il ne veut pas participer à un congrès qui mettrait en confrontation les autres candidats. Et donc, comme il n'a pas à l'heure actuelle tué le match, mais que dans tous les sondages, il est le candidat le mieux placé pour l'emporter, il a tendance peut-être à surestimer son influence. Mais je ne vois à l'heure actuelle de décisif contre lui que peut-être Valérie Pécresse et sans doute Michel Barnier, qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'il est beaucoup aimé par les adhérents LR. Donc, j'attends avec impatience la suite.
Édouard Philippe inquiète certains proches du président.
Eh oui, l'ancien Premier ministre qu'on entend beaucoup en ce moment. Un peu trop, diraient certains cadres de la majorité d'ailleurs. Édouard Philippe qui va lancer son propre parti, vous le savez.
Dans
et qui
semaine.
A détaillé ces derniers jours, voilà, dans une semaine, qui a détaillé ses idées ces derniers jours, un petit peu de son programme. Philippe alerte sur la dette, par exemple. Il est pour le départ à la retraite à 67 ans. Et certains proches du président ont peur que l'ancien Premier ministre ne vienne concurrencer leur champion. Alors, selon vous, Édouard Philippe peut-il devenir un handicap pour le chef de l'État? Qu'en pensez-vous? Tiens, Philippe Bilger, je vous redonne la parole. Je aimerais vous lire ce qu'a dit un proche d'Emmanuel Macron. Il n'est pas question qu'Emmanuel Macron se fasse pourrir son quinquennat par tous ceux dont il aura besoin pour être réélu.
J'ai vu, mon cher Philippe, qu'on avait la même lecture. Non, mais je crois qu'Édouard Philippe a clairement dit qu'il soutiendrait Emmanuel Macron, mais il est clair qu'il exprime aujourd'hui de plus en plus nettement des différences pour préparer la structure de son parti et évidemment songer à un avenir dans lequel il espère avoir la première place.
Voilà, et donc il va annoncer inaugurer son parti la semaine prochaine, Édouard Philippe. Tiens, un dernier mot en 30 secondes, pourquoi parle-t-on beaucoup de ce chanteur? Écoutez.
Parce qu'il a soutenu Anne Hidalgo.
Et oui, il a apporté son soutien
franchement,
à Hidalgo
pour
la présidentielle.
Elton, mais je vais plus l'écouter.
Ça a fait beaucoup de bien à la candidate socialiste qui peine dans les sondages. Et figurez-vous, tiens, qu'il y a une autre star qui soutient un autre candidat, c'est Jane Fonda qui soutient Sandrine Rousseau. Voilà. Allez, passez un bon week-end et rendez-vous lundi pour d'autres actus sur la présidentielle.
Tout ça vole haut, les amis.
Hein. Ce serait peut-être bien d'informer Jane Fonda que Sandrine Rousseau has lost. Elle a perdu, ce serait quand même pas mal.
Mais elle va continuer à l'ennuyer, hein, Jadot.
Ah bah ça, c'est sûr qu'il n'est pas au bout de ses peines. À 18h30, notre grand débat. À faire le grêlé contre les tueurs en série, faut-il un fichier ADN de toute la population? Vous êtes 30,5% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur du livre « Libre propos d'un inclassable » publié à la Nouvelle Librairie. Aurore Boyard, avocate, co-autrice avec Olivier Lambert du livre « Quand l'Europe s'en mêle » publié chez Librinova. Caroline Pilastre, chroniqueuse et...
Consultante.
Tu bugs, dans le domaine du... Non, je voulais voir.
C'est compliqué.
Pas du tout. Dans le domaine du handicap visuel. Et je tiens à rendre un petit hommage à une fidèle auditrice, Anne-Marie, qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est 48 ans. Elle m'a prévenu sur les réseaux sociaux. C'est une auditrice très fidèle qui
bon
nous a déjà envoyé de l'excellent foie gras.
Bon anniversaire,
donc,
Anne-Marie.
Donc, on embrasse Anne-Marie.
Bon anniversaire. On aime tous le foie gras.
Oui. Et même Philippe Bilger, vous aimez bien ça, vous, le foie gras?
Ah ben, j'adore.
On l'a vu il y a 4 jours à 5 ans.
pas mangé.
Ah non, à Saint-Gaudens, vous étiez pas... On j'ai salue d'ailleurs pris. Nos amis de Saint-Gaudens,
tout...
Christophe Laforgue, etc., toute l'équipe, parce que là, on a mangé du foie gras pour
et
trois
quelle
semaines.
Viande, vous et quelle viande,
non, mais on aime foie gras et miel aussi. Hein. Non, hein. Ah oui, on aime foie gras et miel, et bon, champagne, bien sûr. Je sais pas si on... Puisqu'on est à dire...
Non, mais on est dans le sud-ouest, donc on prendra plutôt un jurançon moelleux, ou un sauterne, ou un loupiac,
mais
ou un
si vous êtes là, Caroline, on se détourne du foie gras.
Merci, cher
fille. À 18h30, notre grand débat, affaire Le Grélé. Contre les tueurs en série, faut-il un fichier ADN de toute la population? Pour le moment, vous êtes 30,2% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Ça va, les vraies voix?
Oui.
En forme? Ça vous dirait un petit tour de table de l'actualité de Philippe Bilger?
Ah oui, oui.
Eh bien, il va commencer alors, en musique.
Les vieux ne parlent plus. Ou alors seulement.
Mais c'est pas pour vous, hein. C'est pour votre tour de table.
Elle est très belle.
Ah, elle est sublime.
Magnifique chanson, ouais.
Même riches, ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux.
Quand on écoute du Jacques Brel, Jésus, le silence se fait naturellement.
Celle-là est magnifique.
Ah, c'est une des plus belles. Et mon cher Philippe Bilger, vous voulez parler alors, des 53 000 personnes âgées qui sont en situation de mort sociale.
Alors avant, je voudrais de nouveau, Philippe, m'expliquer, parce que j'ai eu deux chroniqueuses qui m'ont dit que j'avais fait un humour non pas noir, mais seulement noir. Et donc... Évidemment, je vous souhaite, mon astuce était foireuse, je vous espère jusqu'en 2100, jusqu'en 2200.
Ah non, je serais trop vieux.
Mais oui,
ah
mais
excusez-moi,
moi aussi.
2200, ça me ferait 234 ans.
Non, mais
ans,
on ne sait jamais.
Avec les progrès de la science, on ne sait jamais.
Non. Et donc, je veux vous rassurer. Je ne désire que votre bonne santé, mon
oh,
cher.
Mais moi aussi.
Parce que sans animateur comme vous, je serais très malheureux. La mort sociale, plus sérieusement... c'est quelque chose qui me touche parce que, à plusieurs reprises, lors de l'épidémie, on me demandait est-ce que c'est terrible pour vous ? Et j'avais la faiblesse de dire que la solitude ne me faisait pas peur dans la mesure où j'avais la liberté de la quitter. Et là, et dans mon histoire familiale, j'ai connu des personnes âgées qui attendaient beaucoup de nous, on leur donnait la présence qu'elles souhaitaient. Mais j'ai pensé à ces 530 000 personnes en situation de mort sociale, notamment un exemple d'une femme de 92 ans qui n'a vu qu'une personne durant un an parce qu'une personne qui venait bénévolement lui parler et qui, ces personnes âgées, mort sociale, qui ne disposaient d'aucun des réseaux qui aujourd'hui font la convivialité, l'amitié, le voisinage, les réseaux sociaux et associatifs. Donc c'était, et la télévision éventuellement, c'est terrible de penser à ces gens qu'on abandonne. Certains n'ont plus personne et d'autres, malheureusement, sont dans des familles qui les ont complètement négligés ou abandonnés. C'est terrifiant.
C'est vrai que c'est terrifiant de voir le souci du, comme on dit, le grand âge. On ne dit plus la vieillesse, ouais. Le mot est devenu tabou. Maintenant, on ne parle plus de troisième âge, mais de quatrième âge, etc. C'est terrible.
Bah, c'est terrible.
J'ai été touché personnellement dans ma famille très proche. Ça fait peur.
Ça fait peur, c'est terrible.
Mais heureusement, la personne dont vous parlez, Philippe, n'a jamais été en
abandonné.
État de mort
absolument.
Sociale.
Absolument. Mais vous savez, je veux dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Alzheimer, c'est déjà une mort sociale.
Ah oui. Non, alors ça, on le voit, en fait, les gens vieillissent. Mais il y a aussi le problème que, comme il y a des maladies comme Alzheimer, qu'il n'y avait pas forcément avant, parce que les gens mouraient beaucoup plus jeunes,
oui.
La difficulté, c'est que Alzheimer ou Parkinson, ils deviennent aussi un peu difficiles à vivre. Et au lieu de voir que le tout début, où finalement, des personnes âgées commencent à devenir un petit peu acariâtres ou difficiles, ou voilà, au lieu de se dire c'est peut-être les préludes de la maladie, souvent la famille s'en va parce qu'ils sont fatigués, épuisés, ou que ça les enquiquine tout simplement. Alors qu'il suffirait de faire une prise en charge, notamment médicamenteuse, pour stabiliser l'humeur. C'est un vrai drame
mais
social.
Mais un vrai enjeu de société aussi.
Mais bien sûr, un vrai enjeu sociétal.
Justement, Caroline Pilas, vous défendez beaucoup les victimes de handicap. Est-ce que quelque part, une société, on ne reconnaît pas sa valeur à sa manière de protéger les plus faibles ?
Bien évidemment.
Et attention, le terme faible n'a rien vulnérable, de péjoratif. Vulnérable, si vous préférez. Voilà. Je ne veux pas que ce soit mal interprété.
Non, mais bien sûr, moi je suis très touchée par le sujet qu'a choisi Philippe et je vous rejoins tous, bien évidemment. Vous savez, la dépendance,
On va tous la connaître à un moment donné de sa vie. On ne sait pas si on pourra être entouré. Donc c'est vrai que vous avez beaucoup de personnes âgées qui en plus vivent dans des endroits reculés, qui sont en ruralité, qui ne parlent à personne de la semaine, à part le facteur ou le médecin. Et c'est assez terrible de se dire qu'on est quand même dans une société hyper connectée et à l'arrivée, on est assez seul. Parce que dans la vie, même si on arrive à gérer les réseaux sociaux, on n'a pas 500 amis. La vie, ce n'est pas Facebook. Les gens que vous aimez, que ce soit famille, amis, vous les comptez sur les doigts de la main. On peut tous être dans des domaines où on côtoie des gens, si on est extraverti, sympa, sociable. Mais on catégorise dans la vie. Les gens en voient s'ils sont présents et on se rend compte de leur valeur quand ça va mal. Quand vous avez un ami sur qui compter à 2h du matin, c'est extraordinaire. Et moi, je trouve que dans un monde où tout avance très vite, où on est dans une instantanéité de tout, des médias, de la politique, où les choses n'ont pas de sens la plupart du temps. On devrait vraiment faire preuve d'humanité et cette crise devrait nous rappeler qu'on est uniquement sur cette terre que de passage. Et je voudrais tirer mon chapeau, parce que j'en avais fait des chroniques à l'époque, aux municipalités qui, la plupart du temps, se sont très bien conduites avec les personnes en situation de handicap et les personnes âgées lors de la Covid. Elles appelaient, elles prenaient des nouvelles pour savoir si ça allait psychologiquement en dehors des courses et de toute la question économique ou liée aux auxiliaires de vie. Donc voilà, il y a des gens formidables dans notre pays. On est 13 millions de bénévoles. Il ne faut pas l'oublier, mais voilà, tout le monde va vieillir, tout le monde va être dépendant. Alors, ne pas mettre à l'écart cette population, parce qu'on va en faire partie.
Dépendant, ma chère Caroline, et j'espère indépendant toujours aussi. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'aime beaucoup l'Afrique noire, que je connais bien, l'Afrique francophone, où jamais ils ne laisseraient une personne âgée. Il y a une solidarité absolue, on les garde, c'est fabuleux.
Mais la Méditerranée, en règle générale. Ouais.
Oui, mais il n'y a pas que l'Afrique, c'est ce que j'allais dire. Hein. Les Italiens, pareil.
Les Espagnols, en Asie, moi je suis allé beaucoup de fois en Asie, du Sud-Est, que je connais très bien. En Asie, on n'abandonne pas les personnes âgées.
On respecte, on les respecte.
Dans le métro, c'est extraordinaire. Je vois des Asiatiques naturellement plus âgés que moi et qui me disent « Vous ne voulez pas vous asseoir ? Alors j'ai un rêve de galanterie, je reste debout. »
Enfin, excusez-moi, naturellement plus âgé que vous, ça ne me paraît pas évident.
Pourtant, c'était le cas.
Pensez-vous pas philosophiquement, en dehors de ce que vous venez de décrire, Philippe, et vous avez fait une très belle chronique, que c'est aussi lié à la question du jeunisme. Parce qu'on nous parle des jeunes du matin au soir. Et si vous voulez réussir, il faut quand même avoir une allure qui rentre dans les cases. Il faut toujours être frais, beau, apprêté.
Donc je pense qu'il n'y a pas
rien
que ça.
Rien n'est plus ridicule.
Mais moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que c'est l'égoïsme aussi. C'est-à-dire qu'on leur a tellement expliqué qu'ils avaient des droits et puis tellement pas tellement de devoirs. Et puis il y a l'humanité aussi. Puis je rappelle quand même que l'empathie, il n'y a que 3 personnes sur 10 qui sont en pâte. Il y a ça aussi, quand on n'arrive pas à se mettre à la place des autres, ça interroge, ça pose problème.
Ce serait une bonne chose à enseigner peut-être dans les écoles. Les vraies voix, 18h16. Merci Philippe Bijard. En plus, on a pu entendre du Jacques Brel. Et je vais vous dire que je vais vous faire une remarque qui va vous déplaire. Les vieux de Jacques Brel, j'adore Jean-Jacques Goldman, mais ça vaut toutes n'importe quelle chanson de Jean-Jacques Goldman.
Mais il y a de très belles chansons
de Goldman également.
Et notamment Amsterdam.
Dans quelques instants, on va recevoir la gagnante d'un prix qui a été remis hier à l'UNESCO. Oui, le prix Marie-Claire pour l'égalité, le prix Tech for Women, c'est Dominique Brogy qui a lancé Mon Shérif. C'est un tout petit bouton qui vous permet, si vous êtes victime de violences à domicile, de prévenir immédiatement les personnes que vous avez mises en contact.
À domicile ou à l'extérieur.
À l'extérieur ou à domicile ou à l'extérieur, bien sûr. Elle va être avec nous dans quelques instants. Restez bien sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Aurore Boyard et Caroline Pilastre. On aime la France qui gagne sur Sud Radio et dans les vraies voix, surtout à l'international. Et un bouton connecté français contre les violences conjugales a obtenu le prix du Think Tank, on va dire le laboratoire d'idées, c'est plus facile à prononcer, Marie-Claire, pour l'égalité, le prix Tech for Women, qui lui a été remis hier à l'UNESCO. Nous sommes en compagnie de Dominique Brogy, fondatrice de la société Domi Digital et créatrice du dispositif Mon Shérif, comme le shérif aux États-Unis.
Exactement.
Bonsoir.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Alors tout d'abord, qu'est-ce que Mon Shérif ?
Alors, Mon Shérif, c'est une solution qui regroupe, qui réunit en fait un bouton connecté qui est tout petit, ce qui permet qu'il se porte de manière non visible sur soi et qui est relié avec une application mobile et qui va permettre aux gens de pouvoir agir en toute discrétion sans être vus dans des situations qui peuvent être critiques, surtout quand elles ont besoin d'appeler au secours.
Alors, comment est née l'idée ?
Alors l'idée remonte loin, hein, remonte à 2015. Au début, l'idée, c'était de dire que c'était surtout orienté pour nous, les nanas, les femmes, de dire vivons nos passions librement, faisons tout ce que nous on a envie de faire, courons, amusons-nous, etc. Au-delà de nos craintes, au-delà de nos vulnérabilités. Si vous souffriez, par exemple, si vous étiez en situation de handicap ou si vous êtes dans des environnements un petit peu difficiles, etc. Et pour moi, l'idée, c'était de dire, de pouvoir vivre librement, c'est-à-dire sans avoir le téléphone greffé dans la main. Donc, je trouvais intéressant l'idée d'associer un petit bouton, enfin, un objet connecté, quel qu'il soit, petit, qu'on porte sur soi, qui permette de communiquer. Et puis, ensuite, sont arrivés les attentats, de novembre 2015. Et là, l'idée s'est transformée dans un projet sur lequel je me suis interdit d'échouer. Et ce projet, c'était de me dire, non, absolument, quand on a des situations dramatiques comme ça, on doit pouvoir agir. Sans être vu, en silence, communiquer avec ceux qu'on aime, soit pour dire adieu, soit pour appeler au secours, mais faire quelque chose. Et en tout cas, essayer de se défendre. Et donc de là, j'ai sorti cette solution. Je l'ai lancée en mai 2016, donc ça ne date pas d'hier non plus. Et puis, tout à fait par hasard, à partir de 2018, je suis tombée dans l'univers des violences intrafamiliales. Avec une personne qui était présidente d'un tribunal dans Auxerre et qui forcément suivait des femmes victimes de violences et qui avait une de ces femmes découpée au sabre avec sa fille de 10 ans. Et lorsque je lui ai expliqué ce que je faisais, elle m'a tout de suite demandé la possibilité de tester le bouton. Et bien sûr que j'ai dit oui. Et en fait, j'ai mis le pied là-dedans et là, mon projet... C'est transformé en obsession de femme.
On va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger, dans le micro.
Vous avez été très clair, chère madame. Pour que je comprenne bien, techniquement, on appuie et ça va où ?
Alors, quand on a ce bouton sur soi, on a trois façons de l'utiliser. Le simple clic va envoyer un SMS avec sa géolocalisation. Dans le cadre des femmes victimes de violences, par exemple, alors je dis femmes, c'est pas péjoratif, mais 80% des gens victimes de violences sont des femmes. Donc très souvent, la maman a peur de l'intrusion du conjoint violent. Donc par exemple, si l'enfant a ce bouton, lorsqu'il est avec son parent ou qui est en sortie scolaire, un petit clic discret, la maman reçoit le SMS qui dit tout va bien, ne t'inquiète pas. Mais comme il y a la géolocalisation, elle sait qu'il est bien à l'endroit où il doit être. Ou bien M, quand elle va chercher des affaires, qu'elle doit retourner en présence de son conjoint, ou parce qu'elle vient de déposer plainte et que Dieu merci, on a pu lui remettre ce bouton et qu'elle va rentrer au domicile où elle a peur, elle peut faire le petit clic qui va dire « bon, vous inquiétez pas, tout va bien ». En revanche, si vous faites un double clic, là, je déclenche un appel au secours. Là, je suis en train d'en faire un pour faire une démonstration. Et là, il y a 5 personnes qui vont recevoir ce message, très calme, très posé, mais qui explique qu'il faut absolument se mobiliser pour me porter secours.
Vous entendez le SMS qui arrive et l'appel.
C'est un appel d'urgence automatique envoyé par Brogy Dominique qui demande du secours. Brogy Dominique a activé cette solution d'alerte car il lui est impossible de prendre son téléphone.
Et donc
ne cherchez donc pas à rappeler. Brogy Dominique se trouve actuellement à Centre de B avant du président Kennedy, 75-16 Paris, France.
Donc... Appelez... En fait, cet appel téléphonique est reçu par 5 personnes à la fois. Et elles reçoivent en même temps le SMS. Donc l'appel est calme pour pas les affoler. On leur dit d'aller voir le SMS, ça redonne la géolocalisation. Et en même temps, j'y ai mis un lien, comme un zoom. Ce qui fait que les 5 personnes qui reçoivent le message, ça peut être 2 personnes, ça peut aller jusqu'à 5, peuvent se voir pour coordonner les secours.
Caroline, une seconde, vous ne craignez pas que des gens pensent à une plaisanterie ? Il y a tellement de farfelus aujourd'hui.
Alors, ce serait difficile, parce que comme vous mettez vous-même les gens que vous choisissez être votre contact d'urgence, je ne pense pas que vous fassiez ce genre de blague. Et puis d'autant plus que même dans le cas des personnes victimes de violences, si on s'amuse à déclencher cette alerte et cet appel au secours qui est grave, simplement pour rigoler, vous n'allez pas être pris au sérieux le jour où vous en avez besoin. Et je terminerai sur le troisième clic qui est très important, qui permet d'enregistrer et donc de faire de la captation de preuves. Et il n'y a pas longtemps, on s'est allié avec une association qui s'appelle IOP, qui a été la première et qui est la seule d'ailleurs qui a cette technologie unique qui permet de récupérer les preuves et de les sécuriser par la blockchain. C'est infalsifiable et donc ça permet à la victime de ne plus avoir à se battre pour justifier son statut de victime.
Caroline Pilastre.
Félicitations pour votre prix qui est largement mérité, pour cette innovation, pour votre travail. Je connais votre engagement et vous avez évidemment mon total soutien. Moi, j'aimerais savoir quelle va être la suite au niveau de la commercialisation. Comment est-ce que le grand public peut se procurer votre appareil?
Alors, il y a deux choses. Vous avez, moi, j'ai un site web où tout le monde peut venir chercher ce bouton.
Donnez l'adresse. Hein.
Alors c'est www.monchérif.com.
Mon chérif avec deux F.
Non, pas du tout. M-O-N-S-H-E-R-I-F.
Ah, il y a un seul F, d'accord. Seul F. Oui, exact.
Voilà, mais là, c'est... Et alors, il n'y a pas que ce bouton, parce que quand je reviens à ce que je vous disais au départ, ça s'adresse aussi aux gens qui ont des conditions médicales fragiles, etc. Porter un bouton non visible sur soi, il faut penser à le mettre à la bretelle de son soutien-gorge ou de l'accrocher à un vêtement, ça veut dire que vous êtes déjà dans une situation où vous avez peur. Mais quand vous êtes dans une situation légère, parce que vous voulez dire, ben, si je veux rester en lien avec mes proches, si jamais je fais un infarctus, si jamais je tombe, etc., etc., j'ai aussi fait des déclinaisons sous forme d'accessoires qui se mettent autour des sacs à main ou de bijoux qui se portent sur soi. Ensuite, concernant les femmes victimes de violences, il faut que je sois très claire là-dessus, ce sont les associations d'aide aux victimes qui achètent ce dispositif et qui le remettent gratuitement. Une personne victime de violences ne paye rien. Et en fait, ce dispositif, il est remis à des gens qui sont déjà équipés du téléphone grave danger. Pourquoi ? Parce qu'avec mon dispositif, même si le téléphone est arraché, ce qui est souvent le cas, si vous êtes victime d'une agression, la première chose que va faire l'agresseur, c'est d'arracher votre téléphone ou sac à main. Ça marche jusqu'à 15 mètres de distance. Donc, je connais personne qui lance un sac à main à 15 mètres. Donc, quand vous êtes dans une situation de panique, aller chercher son téléphone, c'est impossible. Quand vous avez ce dispositif sur vous, vous pouvez réagir. J'ai des histoires affreuses, mais genre une personne qui se retrouve enfermée dans les toilettes avec quelqu'un qui a un couteau derrière et qui veut absolument en finir avec cette personne, si elle a le téléphone dans l'appartement, elle fait comment? Elle ne peut pas aller se saisir du téléphone. Oui. Si elle a mon dispositif, elle s'en sort. Enfin, on espère qu'elle s'en sort en tous les cas.
Aurore Boyard, j'ai visité la maison dont vous vous occupez en partie. On avait eu Nathalie d'ailleurs qui s'en occupe, c'est Nathalie Rocailleux.
Oui, Nathalie Rocailleux, d'avoir fait la transition.
Absolument, la maison Françoise Giroux à Toulon pour les femmes victimes de violences. Et ça, par exemple, c'est distribué?
Ah oui, bien sûr. Alors en fait, moi déjà, je les utilise. Hein. J'ai rencontré Dominique au mois de mars, j'ai trouvé ça formidable. Aujourd'hui, j'en ai distribué à peu près une quarantaine sur des clientes, puisque je suis spécialisée dans la lutte contre les victimes, contre les violences intrafamiliales, pardon. Et ça fonctionne très bien, puisque j'ai d'excellents retours. Et puis dernièrement, il y a un auteur qui a été placé en garde à vue grâce à ça. Le SMS est parti, la police a été appelée, qui était là en moins de 5 minutes, et l'auteur a été placé en garde à vue. Donc c'est extrêmement efficace. C'est un outil que l'on utilise, hein, nous, sur la maison Françoise Giroux. Mais pas que nous d'ailleurs, hein, puisqu'il y a beaucoup d'associations, il y a des procureurs aussi qui les utilisent. Et il faut vraiment le généraliser. Et ce qu'il faut, et aujourd'hui, si vous voulez, ça se développe, hein, mais il y a aussi besoin d'investisseurs. Donc ça, c'est important. Parce qu'il faut vraiment le développer. C'est un outil français qui sauve des vies.
C'est un outil français en Avignon d'ailleurs, Avignon Technopole. Oui. Merci beaucoup, Dominique Brogy.
Je vous en prie.
Fondatrice de la société DomiDigital qui a créé ce dispositif, mon chéri. Bravo pour votre initiative et bravo pour votre prix que vous avez reçu à l'UNESCO. Dans quelques instants, affaire Le Grélé. Contre les tueurs en série, faut-il un fichier ADN de toute la population? Vous êtes 28,9% à dire oui, donc 71,1% à dire non. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Aurore Boyard et Caroline Pilastre. C'est la stupéfaction qui a prévalu hier soir lorsqu'on a appris que Le Grélé, tueur en série soupçonné de 3 ou 4 meurtres et 6 viols dans les années 80 et 90, avait été identifié par son ADN après s'être suicidé suite à une convocation non honorée la veille au siège de la police judiciaire de Montpellier. Entre-temps, il avait pu être gendarme, policier et même conseiller municipal à Prades-le-Lez dans la banlieue de Montpellier. Dans l'affaire d'un autre tueur en série, Guy Georges, un enquêteur avait affirmé que, je cite, « l'existence d'un fichier informatisé des empreintes génétiques aurait permis de sauver plusieurs vies en repérant plus rapidement la signature ADN du criminel ». Un fichier nommé FNAEG, fichier national automatique des empreintes génétiques, entré en vigueur depuis, est aujourd'hui composé d'environ 4 millions d'individus. 4 millions, j'ai trouvé que c'était énorme en préparant l'émission. Et sur ces 4 millions d'inscrits, il y a environ 12% des traces qui ne sont pas connues, selon le lieutenant-colonel Brard, chef du service central de la préservation des prélèvements biologiques à la gendarmerie et expert en empreintes génétiques. Notre grand débat de 18h30 sur Sud Radio, affaire Le Grélé, contre les tueurs en série, faut-il un fichier ADN de toute la population? Et vous êtes 29,2% à dire oui. Avec nous, Jean-Pierre Bouchard, criminologue et psychologue, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
C'est un sujet quasi philosophique qu'on traite aujourd'hui, la prévention des crimes et délits ou l'anonymat au nom des libertés.
Oui, effectivement. Alors, pourquoi ? Parce que les tueurs en série, c'est-à-dire les tueurs récidivistes, en fait, puisqu'on considère la série à partir de 3 homicides au mois, ce sont des gens qui récidivent avec un espace de temps entre les homicides et une accalmie émotionnelle. Donc, on comprend bien que la rapidité de l'enquête pour résoudre les premiers homicides ou le premier homicide même va permettre, si l'auteur est interpellé, que la série potentielle soit stoppée. Donc, c'est pour ça que la police technique et scientifique a beaucoup évolué et que la signature génétique des auteurs est maintenant exploitée quand c'est possible, puisque c'est la preuve quasi irréfutable. Si on trouve sur une scène de crime de l'ADN de l'auteur potentiel ou de l'auteur avéré, et qu'on le compare à un ADN connu, ça va donner le nom de la personne, en quelque sorte, et qui a commis l'infraction. Donc, évidemment, la tentation est facile pour certains de dire que si on fiche toute la population, quand une infraction pénale grave, un homicide est commis, si on trouve de l'ADN, il est facile, effectivement, de voir quelle est cette personne. Le problème, c'est philosophique, comme vous le soulignez, et social, et éthique, c'est faut-il ficher toute la population ? Est-ce que la population accepterait que toutes les données aussi intimes que son patrimoine génétique soient connues, puissent être exploitées comme ça ? C'est un vrai problème, et la majorité des gens ne sont pas d'accord avec ça, et préfèrent que les enquêtes soient résolues un petit peu comme maintenant, même comme maintenant, c'est-à-dire avec des techniques plus classiques que j'évoquais tout à l'heure.
Philippe Bilger.
Le problème, en ce qui me concerne, je ne verrais aucun inconvénient à ce qu'on prenne mon ADN à partir du moment où j'y verrais une utilité sociale et pénale. Mais je comprends bien l'interrogation qu'on peut avoir entre cette forme de totalitarisme bienveillant, de globalité, évidemment, qui touchera toute la population, et le rapport avec les investigations pour les crimes en série. Est-ce que cette méthode globale et d'une certaine manière totalitaire qui portera atteinte à, je dirais, une petite forme de liberté, elle est valable alors que le crime en série, heureusement, même dans la définition qu'on vient d'en donner, est assez rare. Est-ce que le rapport, au fond, pratique et crime justifie qu'on aille jusque-là ? Et moi, évidemment, je serais totalement partisan parce que rien ne m'a jamais gêné de ce qui peut être accompli pour moi et sur moi pour aller vers plus de sécurité, plus de tranquillité.
Jean-Pierre Bouchard.
Oui, effectivement, c'est une position qui est bien connue. Hein. C'est tout le problème des contrôles d'identité, etc. Les honnêtes gens disent que il y a aucun problème à ce qu'on les contrôle, à ce qu'ils prouvent leur identité, etc. Et puis certains vont dire que c'est un abus des libertés publiques, c'est un abus et sont plutôt contre ça. En matière génétique, vous le voyez un peu dans vos sondages. Hein. Je ne sais pas si c'est exactement les proportions réelles de la population, parce qu'il y a un chiffre noir important, mais pour l'instant, la plupart des gens sont plutôt contre ça. Mais certains disent ce que, et qui est tout à fait compréhensible, ce que vient de dire Philippe Bilger.
Aurore Boyard.
Alors, moi, je vais être un peu piquante, hein, monsieur, avec vous. Hein. Vous dites que les honnêtes gens ne voient pas d'inconvénients. Donc, moi, je ne vais pas être une honnête gens, en fait. Moi, je suis avocate, hein, donc je défends les libertés publiques. Je ne suis pas égoïste ni rien, mais c'est quelque chose qui me choque parce que malheureusement, on sait qu'il y a toujours des dérives. Donc, moi, ça me gênerait. Ensuite, il y a quand même un détail qui est extrêmement important dans cette affaire. C'est que finalement, en fait, on ne l'a pas découvert, ce monsieur. Il faut savoir que l'enquête n'a pas été abandonnée, qu'il y a une juge d'instruction qui a été désignée et qu'elle a une idée par rapport aux autres qui n'ont pas eu. Ça a été de regarder, parce que dans le cadre des enquêtes, ils se sont bien rendus compte que ce tueur en série était très méticuleux. Et en plus, quand il allait au niveau des victimes, ils se sont rendus compte dans l'enquête qu'il présentait une carte de police ou une carte de gendarmerie. Et c'est comme ça qu'il arrivait à entrer chez ses victimes pour les tuer. Donc, ça fait plus de 20 ans, hein, en fait, quand ils enquêtaient, qu'ils se demandaient...
Premier crime, c'est 86.
Bien sûr, et ils se posaient, ils se sont toujours posé la question de savoir si c'était pas un policier ou un gendarme. Et la juge d'instruction, récemment, a dit, on avait regardé, puisqu'il y avait une gendarmerie qui était située, hein, pas très loin des lieux où les meurtres ont eu, elle a eu l'idée de dire, on va aller regarder tous les gendarmes qui ont été affectés là-bas. Il y en avait 800. Et donc, elle a donné commission rogatoire de convoquer tous les gendarmes qui étaient sur ces années-là dans cette gendarmerie.
Pour un test ADN.
Pour un test ADN. Et c'est à cette occasion que le grêlé, donc le monsieur qui s'est suicidé parce qu'il était convoqué. Il ne s'est pas rendu donc à la gendarmerie de Montpellier. Il a fait une lettre dans laquelle il s'est dénoncé et il s'est suicidé. Ce qui veut dire que si 20 ans, ou il y a 25 ans, quand ils se doutaient que c'était un gendarme, ils avaient fait cette recherche par rapport au pourtour, il y aurait certainement eu pas de crime qui aurait été fait. Donc ça veut dire qu'on avait la possibilité de pouvoir le détecter, tout simplement l'arrêter en réfléchissant. Voilà, donc moi je pense qu'on doit arrêter de tout le temps tout baser sur la technologie. On doit aussi conserver notre sens critique, notre sens. Les enquêteurs, ils sont là pour enquêter, ils sont là aussi pour réfléchir. Et on aurait pu élucider cette affaire depuis bien longtemps si un enquêteur avait eu cette idée de cette juge d'instruction que je vais saluer. Donc pour moi, si vous voulez, ça pose difficulté et je ne vois pas, alors qu'on aurait pu très bien trouver ce monsieur sans forcément. On aurait pu l'arrêter tout simplement, faire un test ADN sur 800 personnes et pas sur 60 millions de Français.
Un cas me revient en mémoire, c'était dans l'Oise d'un gendarme qui était meurtrier il y a quelques années.
Les gendarmes et les services de police, je suis désolée, ils sont aussi représentatifs de la population française. Moi, j'en ai aussi qui frappent leurs femmes, j'en vois dans les dossiers.
Alors, Jean-Pierre Bouchard, criminologue, psychologue, finalement, c'est vrai que si les juges avaient fait leur. Et les enquêteurs avaient fait le boulot il y a quelques années, peut-être qu'on aurait pu le retrouver.
Oui, c'est vrai. C'est tout le problème des enquêtes qui ne réussissent pas pour des problèmes d'erreurs humaines ou de négligence humaine ou de choses comme ça. Et donc, moi, vous remarquerez que j'ai pas donné ma position par rapport à ça parce que je penche plutôt du côté de l'avocate, mais sous condition.
Merci.
Que les instructions soient bien menées, que les magistrats instructeurs fassent bien le travail, les enquêteurs aussi, etc. Parce que sinon, il y a des failles, et quand il y a des failles en matière de tueurs en série, évidemment, il y a de la récidive derrière, il y a des vies humaines qui sont perdues. Donc, c'est toute la complexité de la chose, et ficher tout le monde, évidemment, moi je suis contre ça parce que c'est attentatoire aux libertés publiques, mais c'est en contrepartie, sous réserve, que le niveau d'efficience des enquêtes augmente, et notamment dans ce type de cas.
Caroline Pilastre.
Oui, moi ça ne me gênerait pas qu'on prélève l'ADN dans une grande banque de données, puisqu'on est déjà tous fichés, me direz-vous. Malgré tout, je sais que ça ne se fera pas parce qu'on ne vit pas dans le film Minority Report. C'est impossible. Après, j'entends aussi la majorité des Français qui disent qu'on a beaucoup perdu en termes de recul de liberté avec la Covid. Alors qu'est-ce qui nous reste à part l'ADN, la prise de sang? Et puis après, moi j'ai toujours l'inquiétude justement de qu'est-ce qu'on fait de ces données? Parce que si elles vont dans ce sens-là, moi ça ne me pose aucun problème, comme Philippe Bilger, j'ai rien à me reprocher, et au contraire, si ça peut aider la justice et faire que les enquêtes soient résolues plus rapidement, je suis pour. Pour ce cas de figure, c'était un gendarme, il a été appréhendé parce qu'il commettait ses crimes à visage découvert, c'est comme ça qu'on a su par
qu'il
certains
était grêlé
qu'il était
du visage.
Grêlé. Oui. Voilà, exactement. Et en fait, comme il a été convoqué, il se sentait acculé et il s'est suicidé, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est une question très difficile. Sur le principe, moi, je n'y vois aucun inconvénient, mais j'entends aussi ceux qui craignent pour la suite en termes d'informations données.
Jean-Pierre Bouchard.
Oui, c'est... voilà, après c'est quelque chose qui relève de l'intimité, de la réflexion personnelle, de la philosophie personnelle, et les avis sont partagés. Et vous avez remarqué que moi j'ai un avis un peu intermédiaire, c'est-à-dire que il me semble qu'il ne faut pas attenter aux libertés publiques, mais en contrepartie, on doit sécuriser les choses, et sécuriser les choses, ce sont des enquêtes qui aboutissent rapidement, puisque les tueurs en série peuvent récidiver rapidement. Et d'ailleurs, quand on parle de tueurs en série, on dit toujours, il a tué tant de personnes au mois, parce qu'il risque d'avoir un chiffre noir important, où il n'y a pas de traces, avec des dossiers méconnus et des victimes qui ne sont pas reliées à ces auteurs, parce qu'il est très anormal quand quelqu'un est très motivé par ça, qu'on ait des trous comme ça de 5 ans, 10 ans, sans qu'il se passe rien, mais peut-être s'est-il passé quelque chose et qu'on ne sait pas.
Il a expliqué qu'en fait, il s'était fait soigner. Alors, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que, c'est ce que j'ai lu, aujourd'hui, ça m'intéresse énormément dans la presse. Et en fait, il avait expliqué sur le mot qu'il a laissé, qu'il s'était fait soigner, que ses crimes avaient été faits à une époque où il était extrêmement mal, et que par la suite, donc, il avait été consulté, et qu'il avait arrêté parce qu'il allait bien. Et autre détail aussi, peut-être pour lequel on ne l'a pas arrêté, c'est qu'en fait, il s'est fait pousser la barbe.
Oui, comme ça, on ne reconnaissait pas son visage qui était grêlé.
Ouais, tout à fait. Donc l'explication qu'il a donnée, c'est ça. Alors ça paraît incroyable parce que les tueurs en série, on sait qu'ils continuent perpétuellement. Lui, il a arrêté à un moment donné parce qu'il a dit qu'il s'est fait soigner. Ça pose la question du secret médical.
Vraie question. Oui, bien sûr. Et puis tout ça, c'est déclaratif. Hein, c'est ce qu'il dit, lui.
Bien sûr, on est d'accord.
On part au 0826-300-300, direction Toulouse. Bonsoir, Richard.
Oui, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Est-ce que vous êtes pour qu'on fasse... Alors, c'est ce qu'il y a d'amusant, je le dis, même si le sujet est lourd. Vous êtes une immense majorité, faut-il un fichier, contre le fichier à 71%. Et par contre, les commentaires sont plutôt pour. On a Villeneuve qui nous dit, oui, il y a bien un fichier des empreintes digitales, pourquoi pas génétique. Il n'y a aucune différence. Le fichier serait évidemment réservé aux strictes nécessités de l'enquête et avec un accès très encadré. Anne nous dit, lorsqu'on n'a rien à se reprocher, etc. Et vous, vous êtes contre, je crois, Richard, c'est ça?
Complètement contre, en fait. Je pense que c'est une espèce de massue pour rien du tout, parce que le résultat va être très mauvais, tout simplement, pour une bonne raison. Je suis obligé de bouger. Pour une bonne raison, c'est que les gens qui sont des tueurs en série, eh bien, ils trouveront une parade imparable, c'est-à-dire ils mettront le feu à la scène. Et on n'aura que des scènes de crime qui seront calcinées, comme ça se pratique déjà par certains.
Oui, vous dites par exemple, je vous coupe, on en a eu malheureusement encore plusieurs ces dernières semaines, ce qu'on appelle les barbecues à Marseille, où les personnes tuent la personne, quitte à la prendre avec les mains, la mettre dans le coffre d'une voiture et mettre le feu à la voiture, c'est ce que vous voulez dire?
Bon, il faut toujours réfléchir à la capacité adaptative lorsqu'on prend des mesures de ce type-là, et c'est pour ça que je suis parfaitement con.
Merci beaucoup, Richard de Toulouse. On va faire réagir Jean-Pierre Bouchard, criminologue et psychologue. Qu'est-ce que vous voulez répondre? J'y avais pas pensé, à Richard.
Si vous voulez, les agresseurs récidivistes, comme les infracteurs récidivistes, criminels ou pas, sont quelque part des spéculateurs. Ils ont une espérance de gain, donc pour pouvoir tuer, pour prendre du plaisir sexuel ou autre. Enfin, on ne sait pas quels étaient ses mobiles précis. En minimisant les risques de se faire prendre, ce sont des spéculateurs. Donc, ils adaptent leur stratégie, en général, ce qui leur permet de réaliser donc ces crimes sans se faire prendre. Et c'est comme ça que les tueurs en série dits organisés, qui sont majoritaires, en général, font des séries longues parce qu'ils sont capables d'avoir des doubles vies, des doubles visages, où ils passent à l'acte dans leur intimité méconnue et en parallèle. Ils ont quelquefois des vies sociales assez banales ou tout à fait conformes au reste de la population. Donc oui, effectivement, ils peuvent s'adapter et ils peuvent détruire les preuves. On le voit régulièrement.
Est-ce que vous n'êtes pas étonné, Jean-Pierre Bouchard, que finalement, il ait décidé de tout dire? Parce que certains meurent sans rien dire.
Oui, effectivement. Effectivement, c'est une très bonne question. Là, il se sentait pris, évidemment, puisque s'il refusait, évidemment, c'était presque une preuve qu'il y avait un problème. Il allait être de culpabilité. Et puis, de toute façon, il allait être contraint à le faire. Et s'il le faisait, il était dévoilé. Et effectivement, avant de mourir, il a préféré échapper à tout ça. Alors, j'imagine qu'il avait une famille, c'est ça, etc. Donc, il y avait des enjeux aussi autres où il allait être découvert comme ça. Donc, c'était très, très difficile à assumer. Donc, il s'est suicidé en révélant les choses et peut-être en les enjolivant aussi, je ne sais pas, parce que en général... Ce qui m'a toujours frappé dans les procès de cour d'assises, et Philippe Bidger pourra peut-être le confirmer ou pas, c'est que les tueurs en série ne sont pas très causants. Parce qu'ils ne sont pas très fiers de ce qu'ils ont fait, évidemment. Eux-mêmes savent que
c'est relativement... On peut le comprendre.
que c'est horrible. Et en général, ils sont perclus de trous de mémoire, de je ne sais pas, je me souviens plus, etc. Et au mieux, ils minimisent quelquefois, et c'est très rare, ceux qui, finalement, coopèrent, reconnaissent les faits. Donc, on voit ça très souvent. Et là, effectivement... avant le suicide, il a préféré communiquer là-dessus, parce qu'il y a aussi des enjeux relationnels avec sa famille et autres.
Merci beaucoup Jean-Pierre Bouchard, criminologue et psychologue. Verdict sur Twitter. Affaire Le Grélet, contre les tueurs en série, faut-il un fichier ADN de toute la population? Vous répondez non à 71%. Tout de suite, les vraies voix. Est-ce que vous aimez le bon vin?
Oui. Alors hier soir,
les vins de la vallée du Rhône. Parce qu'on va partir tout de suite du côté du Mont Ventoux, parce que maintenant ils font du vin en luttant contre le réchauffement climatique, et vous allez voir comment.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Aurore Boyard, et on part en région, mon cher Philippe Rossi. Ce soir, vous nous emmenez au Mont Ventoux, plus précisément autour du vignoble de la vallée du Rhône.
Et oui, là-haut, c'est Ventoux, hein, tout le monde connaît, ces 150 caves, ces coopératives indépendantes, tous ces viticulteurs, ils ont tous décidé, les vignerons en tout cas, de s'unir pour préserver la biodiversité et lutter contre le changement climatique. Frédéric Chaudière est avec nous, bonsoir monsieur Chaudière.
Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir au nom de tous les vignerons de là-haut, c'est Ventoux.
Mais c'est un plaisir, vous êtes vigneron, donc président de l'AOC Ventoux. Préserver la biodiversité, lutter contre le changement climatique, c'est une urgence, Frédéric Chaudière. Je rappelle que la récolte en cours est de bonne qualité, mais les volumes ont baissé et les épisodes climatiques sont en cause.
Tout à fait. Mais écoutez, nous sommes dans un écrin exceptionnellement préservé au cœur du Mont Ventoux. C'est un peu la Toscane provençale, c'est l'alternance... évidemment des vignobles, mais des forêts, des lavandes, des cerisiers. Donc on est dans un cadre à cheval sur deux parcs naturels régionaux en plus. Donc ça nous donne évidemment une responsabilité forte sur tout ce qui est question de biodiversité. Et vous le disiez, la vendange qui est en cours va être hélas historiquement faible. Elle sera de très belle qualité, mais il va manquer beaucoup de raisins. Et je dirais que c'était un cadre et un contexte finalement extrêmement éloquent pour que l'appellation révèle ses engagements à la fois environnementaux et territoriaux.
Alors, d'ici à 2030, vous avez pris plusieurs engagements, notamment réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre. Comment comptez-vous vous y prendre, Frédéric Chaudière?
Alors, on a plusieurs mesures sur ce sujet-là. En fait, on travaille beaucoup avec la recherche. On a fait de nombreuses études avec l'INRAE en particulier. Et on vient de terminer notre bilan carbone. Aujourd'hui, l'idée, pour être relativement simple et atteindre notre objectif de réduction de 30% de notre impact carbone, c'est d'une part de faire baisser notre principal poste d'émission, qui est le poste de la bouteille. En fait, c'est la production des bouteilles qui émet le plus de carbone. Donc pour ça, on est en train de mettre en place un réseau de consignes à l'échelle de notre territoire. Et surtout, on a la chance, dans l'agriculture et dans la viticulture en particulier, non seulement, hélas, d'être un peu émetteur, mais de capter, de stocker du carbone. Et on veut développer le couvert végétal, c'est-à-dire enherber, verdir nos vignes de manière à beaucoup augmenter notre capacité de séquestration. Donc on va fleurir et verdir nos rangs de vignes.
Ouais, alors vous êtes engagé également à planter 30 000 arbres d'ici 2030. Et puis surtout, et on va terminer là-dessus, vous avez recruté des personnes dédiées au projet, Frédéric Chaudière.
Tout à fait, c'était extrêmement important pour nous de nous doter de ressources nouvelles pour mettre en place ces engagements. Et depuis juillet 2021, donc depuis 3 mois bientôt, nous a rejoint un nouveau poste, une chargée de mission climat et transition environnementale. Et on va aussi, pour rendre des comptes, se doter d'un comité de pilotage qui sera transversal et qui nous permettra d'avoir à la fois la direction des parcs, la chambre d'agriculture, l'INRAE, enfin... plein d'acteurs de notre territoire qui vont se joindre à nous dans ce bel effort.
Ouais, merci à vous Frédéric Chaudière. Je rappelle que vous êtes vigneron président de l'AOC Ventoux. Alors, je l'ai dit, les volumes sont bas, donc on ne va pas vous demander de nous envoyer une petite bouteille.
Ah si, pour lutter contre le réchauffement climatique, on est partant. Bah,
vous l'aurez même à la taille de notre montagne, ça sera au moins un Magnum ou un Jéroboam.
La taille du Mont Ventoux, une bouteille de la taille du Mont Ventoux. Pour la descendre, ça va être aussi dur que pour monter le Ventoux.
Absolument.
Merci beaucoup Frédéric Chaudière et Philippe Rossi, vigneron et président de l'AOC Ventoux. Dans quelques instants, les vraies voix du jour qui vont débattre avec deux de nos vraies voix. Caroline Pilastre et Aurore Boyard vont rester. Ce sera Fred Dugard et Esteban de Charleville-Mézières. C'est vraiment les deux bouts de la France. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Deux vraies voix sont restées avec nous, les vraies voix de chic et de charme. Bon, uh-huh. Philippe Bilger le prendra pas mal. Caroline Pilastre et Aurore Boyard. Et nous avons avec nous la vraie voix du soir, Fred Dugard. Bonsoir Fred.
Et bonsoir.
Bonsoir Fred.
Alors vous êtes notre vraie voix de ce vendredi 1er octobre. Vous voulez parler de plusieurs sujets et commencer notamment par le grêlé. Un sujet qui vous a interpellé, puisque vous êtes dans le Gard et ça s'est passé pas loin de chez vous, puisque c'était la police de Montpellier qui avait convoqué le tueur en série.
Bah oui, bah écoutez, bon, bah qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on peut parler? On peut parler de ça, oui, effectivement, il y a des meurtres en série, il y en aura tout le temps. Comment en fait arrêter cette bande de fous, parce que c'est pour moi il y a qu'un mot pour caractériser en fait ce personnage, c'était un malade. Donc du coup un fou, un malade, bon c'est différent, on me dirait mais le mec il était quand même malade, donc après il était en plus de ça dans les forces de l'ordre, donc oui. Il avait en plus en sa possession en fait plein d'éléments qui pouvaient en fait mettre en sa faveur quoi, donc du coup là, après, malheureusement, c'est triste pour les victimes. J'ai beaucoup de peine pour celles et ceux qui ont subi en fait la folie de cet homme. Après, comment on pouvait faire? On peut pas, vous savez, mettre une étiquette à chaque oreille.
Justement, je voulais vous poser la question. Ça a beaucoup réagi sur le vote du grand débat de 18h30. Affaire Le Grêlé contre les tueurs en série. Faut-il un fichier ADN de toute la population? Je sais pas si vous avez voté sur Twitter. Il y a même quelqu'un qui avait mis comme commentaire. Je vais vous dire le commentaire. C'était à la naissance. On prend l'ADN et c'est réglé. Si les personnes ont rien à se reprocher, voilà. Il suffirait c'est Vincent. Il suffirait qu'au moment de la naissance, on prenne l'ADN de tous les bébés qui naissent. Ainsi, on pourrait résoudre tous les crimes avec l'ADN. Vous seriez partisan, vous, de faire ça, de prendre l'ADN de chacun à la naissance?
Écoutez, non, pour moi, c'est juste même pour moi, c'est de la folie. Parce que là, qu'est-ce que l'ADN, en fait, irait dans des bases de données? Ces bases de données...
Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est des bases de données étatiques, parfaitement étanches, parfaitement sécurisées et inviolables.
Mais comment tu veux le savoir, ça?
Non, mais j'y crois pas, moi.
Alors,
pas
on fait instant. Réagir Aurore Boyard. Vous qui êtes avocate, vous avez déjà plaidé dans des affaires où on a fait des tests ADN, je suppose?
On en a des dossiers dans lesquels il y a des tests ADN, mais en l'occurrence... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est complètement hallucinant et invraisemblable. On sait très bien que l'État utilise les données, on le voit régulièrement dans des scandales, il récolte des données et puis quand ils en ont besoin, ils les utilisent, hein. Et puis en douce, hein, en loose day comme disent les jeunes. Non mais à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je n'ai pas confiance. Quand on est avocat, on voit tellement de choses, tellement de cas de figure qu'on n'a pas confiance dans l'État. Parce que de toute façon, l'État, c'est qui? L'État, ce sont des hommes et des femmes, et des hommes et l'humain de toutes les façons, est faillible. On le voit bien, puisqu'il y a des tueurs en série qui sont dans les forces de l'ordre. Alors, pas la majorité, bien sûr.
C'est
toujours, on parle toujours d'une minorité. Infime. Et moi, je suis désolée, mais déjà, en tant que citoyenne et en tant qu'avocate, confiée à l'État, c'est pourtant ahurissant de prendre les bébés, et j'ai l'impression qu'on est pire que dans Minority Report. Là, on est véritablement dans
excusez-moi, mais maintenant, vous savez, on est tous fichés par des QR codes, et on est même
contrôlés.
Attendez, excusez-moi, vous êtes contrôlé par un serveur de restaurant qui n'est évidemment pas officier de police judiciaire, qui vous demande et qui voit votre nom, votre prénom, etc. Et je ne vois pas
peut-être,
en quoi ça
mais
le regarde.
Il ne voit pas tout le carnet de santé. Et moi, je suis désolée, l'ADN, c'est véritablement ce qui fait un être humain et ce qui différencie les êtres humains. Et pour moi, il est hors de question de traiter ça à grande échelle, surtout qu'on a d'autres moyens pour attraper les tueurs en série. Je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où on a une enquête qui est carrée, à partir du moment où on a des gens qui réfléchissent, comme cette juge d'instruction dont je salue la compétence et véritablement la pertinence, on aurait pu l'arrêter bien avant, ce tueur en série. Donc il y a d'autres solutions.
Caroline Pilastre.
Non mais en termes d'intimité, c'est la seule chose qui nous reste, l'ADN. Parce que là, tu parlais des QR codes, ok. Mais regardez les hackers. Quand vous voyez que certains sont rentrés dans les QR codes de M. Macron et de M. Castex.
Oui.
Donc ça veut dire qu'ils peuvent tout savoir aussi de nous, à ce niveau-là. On a quand même encore un minimum
d'intimité.
Ouais, d'intimité. Enfin, personnellement, je veux dire, c'est quand même très confidentiel. C'est ce qui nous définit en tant qu'être humain. Donc, une fois de plus, moi, sur le principe, c'est pour ça que j'étais mitigée tout à l'heure. J'ai fait du oui, mais tout simplement parce que j'ai rien à me reprocher et que si ça peut élucider des affaires, bien sûr, ce sont des psychopathes. Mais je me dis aussi, en me faisant l'avocat du diable, sans jeu de mots, hein, si je me permets, Aurore,
je suis une diablesse,
que si en amont, on avait peut-être détecté des attitudes de cet individu, il y a des choses qui ont dû ressortir en termes de failles. En plus, il s'est servi bien évidemment de son statut de gendarme pour avoir accès aux éléments de l'enquête. Et peut-être que même il a menacé des gens. On ne sait pas. Mais pendant tant d'années...
A priori, il s'est introduit dans les domiciles, d'après ce que disait,
mais il s'est senti tout puissant. Et c'est comme les Guy Georges, les Fourniret. Il y a quand même certaines choses qui peuvent nous dire quand on est dans l'entourage de ces gens et qu'on ne fait pas partie, évidemment, d'individus qui pourraient les protéger et avoir une complicité, qu'on pourrait relayer auprès, ne serait-ce que de la police. Alors, moi, je suis très gênée parce que, franchement, ça m'a fait penser à Minority Report, cette histoire d'ADN. Vraiment.
Mais par contre, ils sont des psychopathes. Et les psychopathes ont un mode de fonctionnement très particulier. C'est comme les pédophiles, en fait. Quand ils disaient tout à l'heure, hein, les pédophiles, ils avoueront jamais. Hein. C'est extrêmement rare, un pédophile qui avoue. Et ils ont des fonctionnements très particuliers. Donc, c'est très difficile à détecter, hein, vraiment.
Alors,
Caroline.
Fred, vous voulez parler d'un autre sujet judiciaire beaucoup plus léger quand même. C'est l'affaire Benalla. C'était mon coup de gueule du jour. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce réquisitoire à 18 mois de prison avec sursis pour les violences place de la Contrescarpe avec une tenue de, avec des attributs de policiers, etc.
Oui, bah, écoutez, ça c'est une pièce de théâtre pour moi. C'est-à-dire le gars, son coffre-fort disparaît, il utilise des passeports, il fait ce qu'il veut, et le mec dit mois de prison avec sursis. Hein, mais vous savez quoi, dans la rue, moi je sors, j'emplâtre un mec, je m'intarte à un type ou n'importe qui. Hein. Là, de suite je me fais embarquer par les flics, je passe en comparution immédiate et je prends. Je prends 5 ans de prison avec sursis.
Non, pour une baffe, vous ne prendrez pas ça. Attendez, on va faire rire. Pour une baffe, vous prenez...
Vous êtes un peu excessif, là.
Si vous êtes primo-délinquant, vous ne prendrez pas 5 ans avec sursis, mais vous prendrez effectivement quelques mois de prison avec sursis, avec en plus une obligation de soins, une obligation d'indemniser la victime et une obligation d'aller pointer au commissariat de police.
Mais c'est vrai que ça pose quand même question, parce que cette affaire, excusez-moi, c'est quand même une affaire d'État.
Bien sûr.
Parce qu'on ne va pas nous faire avaler que le coffre-fort, les passeports pour partir après en Afrique, etc., qu'il n'a pas bénéficié de soutien, peut-être au plus haut niveau de l'État, non ?
Ça pose question. Ça interroge. De toute façon, cette affaire interroge, c'est clair.
Qu'est-ce que vous en pensez,
Caroline
Pilastre ?
Depuis le départ, moi aussi, je ne donnerai pas totalement le fond de ma pensée. Mais
vous
je
pouvez
pense
pas
que...
y écrire « Parlons vrai » sur le mur.
C'est vrai,
donc,
c'est vrai.
Hein.
Non mais après, évidemment, j'ai aucune preuve. Mais je pense que c'était... Oui, un barbouze. Enfin, il devait travailler.
Le général de Gaulle, ça s'appelait comme
Oui,
ça,
mais complètement. Barbouzes. Il devait travailler pour d'autres États et peut-être transmettre des dossiers, des éléments. On a l'impression quand même que ce monsieur Benalla, qui avait que 26 ans quand même quand il est arrivé à un haut niveau. Professionnel, en étant garde du corps évidemment du président, était sûr de lui. Enfin, et on a l'impression qu'il a vraiment eu une protection autour de lui. Et moi, c'est ça qui me gêne. L'histoire du coffre-fort. Mais attendez, si vous êtes un citoyen lambda, on vient chez vous, vous n'avez pas autant d'assurance pour la suite des événements au niveau juridique. Moi, il y a quelque chose qui me gêne. On saura peut-être jamais le fin mot de cette histoire. Mais en attendant, je le redit, à défaut de me répéter, pardonnez-moi, mais on a l'impression vraiment qu'il y a une justice à deux vitesses dans ce pays et que la justice est souvent forte avec les faibles et faible avec les forts. Parce que si ça avait été l'un d'entre nous, je le redis aussi, hein, monsieur Lambda, vous inquiétez pas qu'on n'aurait pas été traité de la même manière que monsieur Benalla.
Alors, mon cher Fred, est-ce que vous vous intéressez à la politique parce qu'il y a une info qui tombe à l'instant et si vous êtes OK, on peut en parler.
Dites-moi.
Oui. Un sondage, il vient de tomber. Ipsos Soprasteria, pour la première fois, Éric Zemmour rejoint Xavier Bertrand, dépasse Xavier Bertrand, Zemmour 15%, d'accord. Bertrand 14%, Marine Le Pen 16%, Emmanuel Macron 24%, c'est-à-dire qu'il est à 1% du second tour. Est-ce que le sujet vous intéresse pour en parler ? Vous voulez que je donne tous les scores du sondage ?
Oui, non, c'est pas la peine de donner tous les scores, mais vous savez, là pour moi, comme je parlais en fait de Benalla, de mauvais film ou d'une pièce de théâtre, ben vous savez, la politique aujourd'hui, ben pour moi c'est un peu ça. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je me suis intéressé à la politique, mais très parce que j'étais déjà
impliqué en fait dans certains partis. Et j'ai eu mon évolution et aujourd'hui en fait, je n'irai plus voter car je veux retrouver ma souveraineté d'être vivant. Donc voilà, écoutez, pour moi en fait tout ça, je le laisse de côté et je vis en fait en totale liberté et je ne veux plus en fait élire mes maîtres. Alors du coup, je suis un individu libre.
Mais ça vous inspire quand même, Zemmour, qui n'est même pas candidat, qui est déjà à 15%, qui fait mieux que Xavier Bertrand.
Mais c'est pour ça, vous savez, mais les médias ils sont très forts parce que vous savez ce qui va se passer, parce que moi je le vois de fait d'un œil assez retiré. Donc en fait ce qui se passe, c'est qu'ils veulent faire éclater le Rassemblement National comme ils ont fait avec la droite, avec Fillon, tout ça, toutes les histoires qu'on a pu voir. Donc ils vont faire éclater le Rassemblement National et peut-être Philippot qui commence un peu aussi, il fait son chemin.
Et faire éclater LR aussi.
Oui, voilà, tout à fait. Ah bah oui, de toute façon, droite et extrême droite. Hein. Comme ça, après Macron, il va arriver sur. Ça va être un plateau d'argent, en fait, avec Zemmour en second tour. Et...
Alors, je vous redonne le sondage.
Après, vous savez, après, il y aura le vote électronique et tout ça. Après, vous savez.
Alors, voilà, encore fait. Il y a une proposition de loi pour le vote par correspondance. Mais vous me passez à l'expression, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et c'est pas encore voté. On va faire réagir nos deux vraies voix. Alors, je vous redonne les scores dans l'ordre, hein, de haut en bas. Arriverait en tête Emmanuel Macron, 24%, identique au dernier sondage d'il y a un mois. Deuxième, Marine Le Pen, 16%, elle était à 19% il y a un mois. Troisième, Éric Zemmour, 15%, il était à 8% il y a un mois. Xavier Bertrand, 14%, il était à 15% il y a un mois. Et derrière, Jean-Luc Mélenchon, 9%, et Yannick Jadot, 9%. Alors, c'est en cinquième position, ex aequo. Mélenchon a gagné 1% et Jadot a perdu 1%. Cette candidature Zemmour, est-ce qu'elle peut faire imploser la droite, comme le disait justement Frédéric Aurore?
Oui, bien sûr qu'elle peut faire imploser la droite, et puis je pense que c'est l'objectif. Moi, je suis très étonnée, cette histoire me fait penser beaucoup à ce qui s'est passé avec Macron, c'est-à-dire qu'en ce moment, on ne peut pas ouvrir un journal ou écouter une chaîne télé ou une radio sans qu'on parle de Zemmour.
Comme Macron il y a 5 ans.
Bien sûr. Donc on lui fait une publicité absolument incroyable, c'est d'ailleurs pour ça très certainement qu'il augmente dans les sondages, parce qu'on rabâche, on rabâche en permanence Zemmour, Macron, c'est en permanence ça, et je pense qu'effectivement, alors plein de gens sont dégoûtés, ne vont plus voter. Finalement, le président de la République, il est élu avec, 20%.
Il est passé avec 43% des inscrits il y a...
Au deuxième tour,
mais il avait même pas fait 20% au premier tour.
Voilà, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir les gens qui votent réellement, parce qu'il y a un taux d'abstention énorme, et ça, on devrait en tenir compte. Et donc, du coup, finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, et moi, ça me met extrêmement mal à l'aise, ce sont les médias qui font finalement les élections, et on nous rabâche la tête avec toujours les mêmes noms, et après, vous savez, c'est un langage subliminal. Ça vient, puis après les gens ils votent. Je suis très mal à l'aise avec tout ça.
Caroline Pilastre, ce score de Zemmour qui dépasse Bertrand et qui est maintenant à 1% de Marine Le Pen, qui a perdu en un mois 3% alors que lui en a gagné 7. Est-ce que les courbes ne sont pas en train de s'inverser ?
Ça ne me surprend absolument pas. Il ne faut pas prendre les auditeurs, les téléspectateurs, les électeurs pour des lapins de 6 semaines. Ils savent très bien à quoi s'en tenir. Ils se renseignent de leur côté. Et moi, j'en ai ras-le-bol, je vous le dis, de la bien-pensance médiatico-politique, la fameuse intelligentsia qui nous dit comment penser régulièrement. Et en fait, c'est au-delà du vote contestataire, si M. Zemmour, évidemment, se présente, et il va le faire à un moment donné, soyons clairs.
Il faudra déjà qu'il ait les 500 signatures.
Hein. Exactement.
Et c'est loin d'être gagné.
Oui. Malgré tout, à force de le diaboliser. Et ben voilà où on en arrive. Moi, je n'ai rien contre M. Zemmour. Je ne suis pas du tout pour la censure. J'aime la démocratie dans notre pays et le débat d'idées, sinon je ne serais pas à ce micro et je ne serais pas une vraie
voix. C'est le principe de Sud Radio, on donne la parole à
Exactement.
Tout le monde, on parlerait avec tout le monde.
Mais à force de l'avoir censuré, avoir mis un genre de veto pour l'empêcher de continuer
notamment
face à l'info, exactement, on le voit partout. Et il fait quand même des constats sociétaux qui sont justes. Moi, je ne lui donne pas un blanc-seing, loin de là, sur tous les sujets, je l'ai déjà dit médiatiquement, ainsi que sur les réseaux sociaux. Mais il parle vrai, et il parle à une frange de la population qu'on a méprisée pendant des années. Et par juste clientélisme, par opportunisme électoraliste, que ce soit les LR, et parfois Marine Le Pen, qui est considérée par certains comme trop molle, trop tiède, parce que sociale par rapport à son père, eh ben, il a trouvé un espace, et pas que médiatique. Donc attention, parce qu'on est quand même à 6 mois des élections, rien n'est encore joué, mais bien sûr qu'il dérange et qu'il fait peur, sinon on ne parlerait pas de lui constamment.
Justement, Frédéric, il nous reste allez, une grosse minute pour conclure avec vous. Est-ce que quelque part, je fais la synthèse, comme m'a fait François Hollande pendant des années comme premier secrétaire du PS, entre Aurore Boyard et Caroline Pilastre, est-ce que quelque part, c'est pas... je vais reprendre la Caroline Pilastre. Il fait pas un, Zemmour, c'est pas un peu le refoulé de la pensée française depuis des années qui a été bloqué par le RN pour tout un tas de raisons. Et quelque part, Macron, 5 ans plus tard, l'homme qui sort de nulle part et dont on ne sait pas où il va s'arrêter.
Oui, alors, non, pour moi, Zemmour, c'est pas le reflet de la pensée française.
Non, j'ai pas dit le reflet, j'ai dit le refoulé. C'est d'un point de vue psychanalytique.
Non, mais c'est dingue parce que, moi, je veux dire, voilà, les Français, bon, c'est l'immigration, voilà, on leur fait peur en permanence sur l'immigration, l'islamisme, tout ça. Donc, Zemmour, il arrive là, il fait un débat avec Mélenchon, il parle pas de crise sociale qui arrive, de cette crise sanitaire, complètement ubuesque, tout ça. Donc, en fait, on réchauffe des vieux plats pourris, en fait, de ce climat politique, en fait, qui nourrit, en fait, ces débats depuis 50 ans. Et du coup, en fait, on refait les mêmes schémas, vous voyez. On met, en fait, l'immigration devant. Et alors, oui,
expliquez-moi, parce qu'on arrive au bout, je suis désolé, Fred. Et les sondages ne sont pas parole d'évangile, surtout à 6 mois du vote, parce qu'en 1995, 15 jours avant le premier tour, Balladur battait Chirac et Balladur n'a pas passé le premier tour et c'est Chirac qui a été élu président. Merci beaucoup et bon week-end à vous, Fred Dugard. Merci beaucoup, Aurore. Merci beaucoup, ma chère Caroline.
Merci à vous tous.
Dans quelques instants, on va retrouver Philippe Rossi avec Le Monde Nouveau à Montpellier. Où étaient Patrick Roger et Cécile de Ménibus ce matin? Mais tout de suite, conseil de famille, toujours avec Philippe Rossi et Stéphane Moller.